Il y a autour de la table quatre think tanks qui ont travaillé sur cinq questions, enfin quatre questions plutôt, et qui donneront lieu donc à cinq réunions, puisqu'on invitera également les représentants des candidats ou les candidats qui voudront se déplacer pour faire une restitution et discuter avec eux des différentes propositions qui seront faites par les quatre think tanks. Les quatre think tanks sont, je le rappelle, l'ISA, le CRAPS, les électrons et l'Observatoire de la régionalisation. Et ce soir, pour représenter le CRAPS, on a Didier Bazocchi, donc qui est ancien directeur général de la MMA. Pour représenter l'ISA, on a François Alla, qui est professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux. Pour représenter l'Observatoire de la régionalisation, on a Fabienne Mignot, elle est responsable des relations institutionnelles d'un groupe mutualiste destiné aux professionnels de santé. Et pour représenter les électrons, on a Sophie Beaupère, qui est déléguée générale d'Unicancer, et Béatrice Noëlec, qui est responsable des relations institutionnelles et de la veille sociétale à la Fédération d'hospitalisation privée. Voilà, alors la question que l'on traite ce soir, c'est la question de la prévention. Dire que c'est une bouteille à l'encre, que ça fait partie des serpents de mer et des dossiers mal partis, comme un acronyme bien connu, c'est quelque chose de. C'est quelque chose d'évident dans le domaine de la santé. On a un système de santé qui est extrêmement centré sur le soin et pas du tout sur la prévention. On s'aperçoit pourtant qu'à l'heure actuelle, si on avait fait plus d'efforts dans la prévention, et en particulier dans la pédagogie de la prévention, on serait peut-être un peu mieux en ce qui concerne toutes les stratégies à mettre en place autour de la crise sanitaire, en particulier la vaccination, que ça donnerait très certainement moins d'efforts à faire et aux politiques et au système de santé pour pouvoir s'adapter aux situations exceptionnelles. Voilà, donc autour de la prévention, chacun des think tanks a travaillé et je vais passer tout de suite la parole à honneur aux dames. Donc, je vais passer la parole à Fabienne Mignot, qui représente l'Observatoire de la régionalisation, pour qu'elle puisse nous parler justement de la prévention et de la façon dont l'Observatoire la conçoit.
Je vais remettre mon micro d'abord. Eh bien, écoutez, j'ai l'honneur de débuter, donc vous me pardonnerez mes petites hésitations. De toute façon, je sais que tous les camarades qui ont participé aussi aux réflexions sont parmi nous, donc pourront ajouter un autre propos. L'Observatoire de la régionalisation, c'est un groupe de personnes qui a réfléchi ensemble en se disant, mais est-ce que l'échelon de la région est pas le bon échelon? Aussi pour aborder les questions de santé. Il y avait notamment une audition qui était prévue avec la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MEECS. Donc, on avait alimenté quelques-unes des réflexions avec Olivier Mariotte, Younes Telaïli et Vincent Daël, entre autres. Donc, lors de nos échanges sur le sujet de la prévention, pardon, on m'a dit de me présenter. Mais en fait, Olivier Mariotte l'a fait. J'étais ergothérapeute il y a bien longtemps et j'ai été coordinatrice de santé. J'ai fait de la recherche dans le domaine du handicap entre le sanitaire et le médico-social. J'ai aidé des équipes à se réorganiser après les fusions d'établissements et j'ai été sensibilisée au mal-être des soignants qui arrivaient après le mal-être des profs, après le mal-être des uns et des autres, et je travaille depuis 4 ans pour une mutuelle de professionnels de santé en charge en particulier des questions de la prévention à mettre en place avec les acteurs institutionnels qui sont mes interlocuteurs sur la région du Grand Ouest. Donc, voilà d'où je vous parle, et donc on met en place des actions de prévention régulièrement et on essaie de dénicher ce qui peut être aussi duplicable. Sur le contenu, puisque on va essayer de faire relativement court sur le contenu de nos réflexions par rapport à cette question de la prévention à l'échelon régional. On sait qu'il existe un tas d'acteurs. Je vais mettre mes lunettes pour voir mes notes. Il existe des acteurs qui parviennent à prendre des initiatives qui fonctionnent, mais après, comment on les duplique? Comment aussi, on fait connaître tout ça et on donne une cohérence et une égalité des chances sur tout un territoire sur ces questions de la prévention. On sait aussi qu'il y a un tas de complexités de différents acteurs, sur le domaine de la prévention qui mettent beaucoup de flou pour tout cela, et la prévention qui est peu ou pas suffisamment financée et pilotée, et qui surtout, et c'était là où on était tous d'accord, sur le fait que la prévention ne peut pas et ne doit pas reposer que sur les financements propres au régime de sécurité sociale. En disant, en fait, un de nos propos principaux a été de dire, on sait maintenant et on l'a prouvé depuis longtemps, que ce qui impacte sur les populations, ce sont les déterminants sociaux de santé qui ont été quand même décrits par l'OMS depuis X temps. Et en fait, à l'échelle des régions, on a à la fois les observatoires régionaux de santé, les IREPS, enfin, on a un tas d'acteurs de l'observation des situations de santé. Et puis, on a des acteurs, alors là, pour le coup, du côté plutôt politique et des décideurs, au niveau de la région, on avait évoqué ensemble le fait que les prérogatives de la région, enfin, au sens conseil régional, voilà, comme les élections de l'année dernière, eh bien, a comme mission des missions dans les lycées, des missions au niveau de l'emploi, au niveau de la formation, qui sont tous des vecteurs qui impactent sur la santé des publics et qui peuvent s'adapter à des indicateurs plus locaux. Donc, voilà, un de nos constats, c'est que le financement de la prévention ne doit pas reposer sur la sécurité sociale ou ne peut pas reposer sur la sécurité sociale dont on ne parle que du déficit plutôt que de parler en termes de ressources. Et du coup, l'idée, c'était de mobiliser les acteurs. Alors, on a évoqué plusieurs niveaux de possibilités d'action, en tout cas autour des ARS, soit en enrichissant au niveau aussi des ARS, mais de toute façon en faisant des liens avec les conseils régionaux à ces échelles-là pour vraiment agir sur les déterminants sociaux de santé. En fait, pour étayer peut-être d'un exemple, il existe un programme européen qui s'appelle le programme Unplugged. Le programme Unplugged est un programme de sensibilisation des élèves, plutôt en classe de 5e, aux consommations de substances psychoactives. Ben, ce programme Unplugged, qui bénéficie de financements européens, peut se mettre en œuvre dans les différents collèges de France. Et en fait, il y a des unités qui sont rattachées à l'unité interministérielle des addictions qui donc vont former à la fois des enseignants et mobiliser des acteurs du monde des addictions pour faire des séances d'une heure 10 fois dans une année pour les élèves de 5e. Donc 10 fois une heure pendant une année pour des élèves. Et pour l'instant, ça ne se fait que sur la base du volontariat au niveau des enseignants. Enfin, c'est animé par à la fois un enseignant par un acteur du monde des addictions qui sont formés ensemble et donc délivrent à ses élèves sur 10 mois ce programme-là. Eh bien, vous savez tous ce que c'est qu'une courbe exponentielle. Donc, pour les consommations de substances psychoactives, alcool, tabac, cannabis, c'est les trois substances qui ont été étudiées. Après la classe de 5e, ça fait une courbe exponentielle sur les consommations par les enfants. Et en fait, pour les enfants qui ont bénéficié du programme Unplugged, eh bien en fait, cette courbe n'est pas une courbe, elle reste plate, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les consommations. Donc ça a été prouvé par des études faites, pilotées par Santé publique France, et c'était notamment sur un dispositif qui a été mis en place à Tours. Et alors voilà, la question après, c'est de se dire, si on veut vraiment faire de la prévention, est-ce que au niveau de programmes, comme ça peut être pour les présidentielles, est-ce qu'un système qui est aussi décloisonné que celui-là, ne faut-il pas mettre plus d'appui sur est-ce que tous les élèves de 5e ne devraient pas bénéficier dans notre pays d'un tel programme qui finalement, pour chacun d'eux, ne mobilise que 10 heures d'enseignement réparties sur une année en classe de collège. Donc, et l'idée, c'est de se dire bah, comment après on va piloter ce type de programme, mais qui est juste un exemple de prévention, comment ça va être financé. Et surtout, ce ne sont pas les acteurs du monde de la santé qui participent. Donc, j'espère que je suis relativement claire. Je vais m'arrêter là pour cet exemple. En tout cas, déterminants sociaux de santé, pilotage au niveau régional de la prévention en santé. C'est vraiment nos conclusions principales et partagées.
Merci beaucoup, Fabienne, pour cette position du think tank Observatoire de la régionalisation. Je passe tout de suite la parole à Sophie et à Béatrice. Si vous pouvez vous présenter, peut-être un peu moins succinctement que ce que j'ai fait tout à l'heure, n'hésitez pas à le faire. Et donc, vous prenez la parole pour les électrons.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on va faire la présentation à deux voix. Donc, je vais démarrer. Sophie Beaupère. Je suis déléguée générale d'UniCancer, c'est-à-dire la fédération des 18 centres de lutte contre le cancer. Évidemment, on travaille beaucoup sur les sujets de prévention primaire, secondaire, tertiaire de l'ensemble des cancers. Mais bien sûr, au nom du groupe du think tank Electron, on a travaillé sur largement la réflexion sur la prévention. Et on a dégagé... cinq orientations. Donc, je vais en présenter deux et puis après, Béatrice présentera les suivantes. Donc, ce qui ressort de notre réflexion, c'est que bien sûr, il faut faire de la prévention une ligne directrice horizontale qui traite de l'ensemble des sujets sanitaires et sociaux et qui concerne l'ensemble des acteurs du monde de la santé. C'est évident, mais ça doit quand même être rappelé parce que pour faire le constat, on peut partir d'ailleurs du récent rapport de la Cour des comptes hein, sur la prévention qui est sorti à la fin de l'année et qui rappelait que l'effort financier qui était fait par la France, de mémoire 0,63% du PIB, il était conforme à celui fait par les autres pays européens, mais qu'il y avait néanmoins plusieurs problématiques qu'on pouvait soulever. Il y avait un manque d'articulation finalement entre les différents programmes de prévention, puisqu'il y a depuis 2018 le plan national santé publique, mais en parallèle, il y a différents plans thématiques. Et on peut prendre l'exemple par exemple de la stratégie décennale de cancéro, mais que ces différents programmes ne sont pas forcément complètement articulés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui était soulignée, qui nous paraissait pertinente, c'était aussi l'insuffisance d'objectifs pluriannuels. Évaluer, qui permettent vraiment d'analyser l'efficacité des programmes de prévention pour faire court. Donc, ce qui ressort un peu de l'expérience des acteurs de terrain sur ces sujets, c'est que déjà, et ça rejoint peut-être ce qui a été évoqué précédemment, il nous semble qu'il faille davantage faire confiance aux acteurs de terrain, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expérience en matière de prévention. Décloisonné d'ailleurs hein, entre établissements de santé, l'éducation nationale, les professionnels libéraux, et que souvent ces expériences elles sont réalisées, je dirais, avec des bricolages de financement et qu'elles ne sont pas toujours connues et qu'elles mériteraient d'être reproductibles au niveau national. Je prendrai quelques exemples de la cancéro que je connais. Il y a un bus du centre de lutte contre le cancer de Bordeaux qui va au contact de l'ensemble de la population, notamment les quartiers les plus défavorisés ou en campagne, pour faire la promotion des dépistages, donner de l'information. Et ça, c'est financé par exemple par le conseil régional. Et donc, il y a aussi par exemple un programme qui est très intéressant, qui est porté par Gustave Roussy, qui s'appelle Interception, pour cibler les personnes qui sont à plus haut risque de cancer en lien avec les médecins généralistes pour pouvoir, Gustave Roussy a développé un petit programme qui permet aux médecins généralistes d'identifier quelles sont les personnes à plus haut risque et de proposer un programme de prévention, d'information, de dépistage. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qui sont menées par l'ensemble des professionnels, sans pour autant que ces actions soient puissent être diffusées, faute de dispositifs nationaux qui permettent de les faire connaître et de les diffuser. Donc ça, c'était le premier point, c'est comment on améliore ce pilotage. Et un des sujets qui est fondamental, c'est bien sûr les incitatifs financiers. Parce que comment aujourd'hui, ça nous semble encore insuffisant, les mécanismes financiers qui incitent notamment les professionnels qui sont tous débordés, ça on le sait, par leur activité de soins, à pouvoir développer des programmes de prévention. Et en cela, des forfaits globaux type article 51, même si c'est des usines à gaz, méritent quand même d'être développés pour pouvoir porter des programmes qui permettent de mobiliser l'ensemble des acteurs. Encore faut-il que ces programmes soient évalués avec des objectifs pluriannuels qui soient et des indicateurs extrêmement précis. Et l'autre point qui nous paraissait important sur justement en faire une ligne directrice horizontale qui permet de mobiliser tous les acteurs du système de santé, c'est l'utilisation des données, évidemment, et le pilotage par la donnée, notamment pour les actions de prévention, puisque c'est d'ailleurs souligné par le rapport de la Cour des comptes. Il y a aujourd'hui une difficulté, notamment pour les ARS, à avoir un pilotage par la donnée de ces sujets de prévention, de pouvoir recueillir des indicateurs qui permettent une évaluation pluriannuelle. Donc évidemment, pouvoir avoir recours aux outils IA, data et aux applications pour pouvoir travailler sur le sujet. C'est là encore déployé aujourd'hui par les acteurs de terrain. Je pense à la prévention tertiaire, par exemple, où il y a beaucoup d'applications qui permettent d'évaluer, par exemple en cancéro, l'impact de l'activité physique sur l'état de santé des patients. Mais cela nécessite encore de pouvoir être soutenu par les pouvoirs publics. Donc ça, c'était une des premières orientations. La deuxième orientation, elle concernait le rôle des complémentaires dans les actions de prévention, parce que il est clair que les complémentaires aujourd'hui sont mobilisés. Il y a plein d'actions de prévention qui sont soutenues par les complémentaires en matière de prévention, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire d'ailleurs, mais cela n'est pas toujours suffisamment connu et mis en valeur, nous semble-t-il, et bien sûr cela nous paraît fondamental que le rôle des complémentaires soit renforcé en ce domaine, parce que tout simplement la sécurité sociale ne peut sans doute pas financer l'ensemble des actions conduites, et donc cela nous paraît essentiel que dans le cadre de mécanismes de financement justement qui soient travaillés, eh bien le rôle des complémentaires puisse être prévu, tout simplement. Mais je pense que cela va prêter à discussion dans la suite des échanges. J'ai fait très court. Béatrice, est-ce que tu souhaites présenter la suite? Parce que je sais qu'on n'a que 5 à 7 minutes, si je me souviens bien.
Oui,
Est-ce que tu souhaites présenter la suite de nos propositions?
Tout à fait. Et donc, Béatrice Noëlec, je suis la directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale à la Fédération de l'hospitalisation privée. Désolée pour cette inactivité de la caméra, ce n'est pas une coquetterie de ma part, c'est que voilà, c'est une première, il faut bien que ça arrive, ça ne marche pas. Très rapidement, en complément effectivement de ce que vient de dire Sophie, deux, trois autres propositions qui ont irrigué notre réflexion au sein des électrons. La première, c'est de dire, alors c'est triste à dire, mais malgré tout, la pandémie, ce que nous vivons depuis 2 ans, peut être quand même, il faut pas laisser passer l'opportunité en fait qu'offre cette pandémie pour parvenir à irriguer vraiment le système de santé avec les enjeux de santé publique et de prévention. On voit quand même que la pandémie a permis à certains acteurs qui se regardaient en chien de faïence de se connaître, de se parler et de tisser des coopérations. Donc il faut, je dirais, pérenniser, sanctuariser certains acquis de la crise. Et peut-être un des principaux acquis, sans le dire, c'est évidemment cette notion de « one health ». Hein, qui est quand même un concept qui existe depuis 20 ans, ce n'est pas quelque chose qui a émergé il y a 6 mois. Ce concept a ressurgi à la faveur de la pandémie, cette vision évidemment sur laquelle on est tous d'accord, vraiment globale et holistique de la santé. Et pourtant, Cham à la rentrée était dédié à One Health, et on avait des interlocuteurs, dont je me souviens d'un président de syndicat médical qui disait « moi j'en ai jamais entendu parler, c'est quelque chose de totalement en apesanteur par rapport à ce que je vis ». Et donc cette approche de santé en surplomb et transversale, c'est vraiment loin d'être une réalité aujourd'hui. La pandémie a montré combien au niveau de la gouvernance de l'État et en général, il y a des cloisonnements énormes, un gros défaut notamment d'interministérialité, hein, la santé, l'industrie, l'agriculture, l'agriculture, la défense, l'éducation, le logement, tout ça, effectivement, devrait être complètement, ce sont des intérêts de prévention et de santé publique étroitement imbriqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, comme le disait Sophie, ce qui est corrélé, une défaillance chronique dans le partage de données fiables, homogènes. Vous avez vu le récent rapport de l'IGAS qui vient de sortir, qui est très intéressant sur ces enjeux de la statistique des données et ce constat où il déplore effectivement l'émiettement et l'absence de partage. Donc là, on a effectivement en matière de prévention un champ très important. Le deuxième point, effectivement, c'est aussi de faire en sorte que dans la prévention également, la démocratie sanitaire soit une réalité. Là aussi, prenons la pandémie, il y a eu quand même une latéralisation relative de la société civile. On reste encore très imprégné de démarches en termes de prévention, très descendantes, normatives, voire punitives parfois. On porte aux électrons la conviction que l'acceptation de certains changements, voire contraintes, on a aussi des contraintes, passe vraiment par une analyse fine des signaux faibles, une mesure fine des degrés d'acceptation sociale de telle ou telle mesure, comprendre les ressorts profonds de tel ou tel comportement. Et ça ne se bâtira pas de manière descendante sans l'exercice d'une vraie démocratie sanitaire. Donc pour la prévention, encore moins que pour le reste, ce n'est pas juste une question de sachant qui fixe les règles du jeu, c'est vraiment un enjeu d'imprégnation générale de l'ensemble de la société, d'embarquement de l'ensemble des acteurs de la société, aidé évidemment par les enjeux du numérique. Et mon espace santé doit être aussi un vecteur. Et puis enfin, un dernier point que Sophie complétera et qu'on voulait signaler dans la lignée de ce qu'a dit juste avant Madame Mignot, c'est vrai que les collectivités territoriales, on voit bien les régions, elles ont en charge le transport, le logement, autant de sujets qui comportent clairement des enjeux santé, ça corrèle d'ailleurs avec One Health. Et donc là, à l'évidence, il y a matière à notre sens, à une montée en puissance de l'action des collectivités territoriales sur le sujet, tout en trouvant un équilibre entre cette latitude d'action accrue sur les territoires, mais en même temps des priorités impulsées à l'échelle d'une nation, en nombre réduit, mais qui embarquent tout le monde. Aujourd'hui, en réalité, on a 500 sujets de prévention, résultat, on n'en a aucun. Il y a un manque criant de visibilité et de cohérence. On ne renvoie pas aux citoyens aujourd'hui l'image de la visibilité d'une cohérence de la prévention. Résultat, les gens ont l'impression qu'on ne fait rien. Il faut que ce soit un sujet majeur porté non seulement par le politique, mais par tous. Il faut remédier effectivement au cloisonnement et aux émiettements. Et je donnerai un exemple, il faut embarquer tout le monde, les établissements de santé privés, mais tous les établissements de santé publics, privés, associatifs et privés, ce sont des établissements de santé. Nous, on reçoit 9 millions de personnes chaque année, plus leurs proches. On a évidemment un vivier énorme pour faire de la prévention primaire. Il y a des enjeux de financement, etc. Mais on voit bien, il ne faut pas passer à côté de tout ça. Et il faut souhaiter que, voilà, que ce soit qu'on tire les leçons de ce qu'on a vécu depuis 2 ans pour y aller.
Oui, tout à fait. Juste effectivement, pour dire que ça nous paraît fondamental de mettre... on a terminé. En valeur, le rôle des collectivités locales, que ce soit... bien sûr, notamment les conseils régionaux, mais également les municipalités et départements, puisqu'il y a toute la palette de, notamment par exemple, je pense aux risques environnementaux, également au dépistage. Et aujourd'hui, les professionnels sont vraiment très très soutenus dans leurs actions par les collectivités territoriales. Je pense que c'est important de le dire.
Merci Sylvie, merci Sophie pour cette précision. Merci Béatrice. Je passe tout de suite la parole à François Alla pour Lisa.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Bonjour François.
Bonsoir, oui, c'est triste que je ne te vois pas, Béatrice.
Ben oui, écoute, non, je vais essayer d'y remédier d'ici la fin.
D'accord. Donc, François là, donc à l'Université de Bordeaux, et par ailleurs chef du service de prévention du CHU de Bordeaux. Mais je ne vais pas trop vous parler de prévention clinique, qui est mon métier, pour vous parler d'un autre sujet qui me semble majeur. Donc, avant d'aborder les propositions, permettez-moi de donner quelques éléments de constat qui me semblent extrêmement importants si on veut pouvoir aller plus loin et passer des vœux pieux autour de la prévention à, à des résultats concrets. Et les propositions, vous verrez, convergent beaucoup hein, avec ce qu'ont dit les collègues. Donc, la synthèse sera aisée, hein, je pense, que sur beaucoup d'aspects, démocratie sanitaire, territorialisation, données probantes, Unplug l'a été cité, etc. Enfin, je pense que sur un certain nombre de lignes fortes, on se rejoint beaucoup. Mais avant de donner quelques lignes de propositions, sur le constat, ça a été cité tout à l'heure, hein, le rapport de novembre de la Cour des comptes, hein, si je cite une des phrases qui est mise en exergue, hein, avec un bilan de la prévention médiocre en France, malgré des moyens comparables aux pays voisins. Et ce rapport est intéressant aussi pour ça, parce que souvent, quand on parle de prévention, c'est pour dire qu'on n'a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour la prévention, et c'est pour ça qu'en France, on est plus mauvais qu'ailleurs. Effectivement, on pourra discuter des moyens, et notamment pour certaines structures de prévention, mais je pense que ce n'est pas une question de moyens, ou pas une question de moyens d'abord, mais une question de logiciel, et de mauvais logiciel pour la prévention. Parce qu'en effet, quand on analyse la plupart des politiques et des actions de prévention, quel qu'en soit le porteur, sont fondées sur un postulat qui est quand même très fort et très ancré en France et assez spécifiquement en France, que le comportement de santé est un choix individuel et donc rationnel, lié à un manque d'informations. Et donc, il faut transmettre les bonnes informations pour que les personnes adoptent le bon comportement. Et si ils se sont réticents, à la limite, on peut un peu leur taper dessus ou les emmerder, le cas échéant, pour prendre un sujet d'actualité. Et ce postulat ou ce principe est bien sûr faux et archi-faux. S'il suffisait d'être informé pour adopter le bon comportement, ça se saurait, bien sûr. Et s'il suffisait d'être informé pour adopter le bon comportement, pour prendre qu'un exemple, il n'y aurait aucun médecin fumeur, ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et donc, si on veut progresser en prévention, au-delà des mesures très concrètes, j'en voterai quelques-unes si le temps le permet, c'est déjà de changer de paradigme. Et ce que je vous dis, ce n'est pas un scoop, hein, c'est 40 ans de recherche à l'international qui nous ont appris que le comportement, c'est d'abord le fruit d'un environnement pris au sens large. Hein, ce n'est pas que l'environnement physique, mais c'est aussi l'environnement social, l'environnement organisationnel. Et d'ailleurs, à l'étranger, on parle de moins en moins de comportement, mais de plus en plus de réaction comportementale, sous-entendu que le comportement est lui-même la conséquence. Tout à l'heure, on parlait des déterminants sociaux de la santé, mais c'est extrêmement important. Et voilà, pour prendre un exemple très simple dans ma ville de Bordeaux, on est une des villes en France, une des trois villes en France où il y a le plus de trajets emploi à domicile en vélo. Plus de 10% de la population bordelaise va au travail en vélo. Ce n'est pas parce qu'il y a une campagne d'information pour dire « faites de l'activité physique, c'est bon pour votre santé ». C'est parce que la géographie s'y prête, c'est plat, on n'est pas à Grenoble, et parce que le climat éventuellement s'y prête, venez dans le sud-ouest en vacances, et parce que l'aménagement urbain, pistes cyclables, garages spécifiques, etc., ont été mis en place. Et j'ai pris cet exemple anecdotique, mais je pourrais en prendre plein, c'est d'abord l'environnement qui fait le comportement. Ça paraît évident, mais ce n'est pas encore traduit dans nos actions et dans nos politiques. Et le fait de ne pas le prendre en compte, c'est aussi un des facteurs principaux qui explique le point noir vraiment de la situation française en termes de santé, qui sont les inégalités sociales de santé. Tout le monde connaît les différences de mortalité, mais aussi de qualité de vie, de morbidité entre classes sociales. Et ça s'explique aussi par cette pression environnementale. Parce que qui n'a pas le choix de son environnement, que ce soit le logement, que ce soit l'environnement urbain, que ce soit l'environnement professionnel. Bien sûr, c'est lié à des facteurs économiques, socioculturels. Pour donner un exemple très concret, parce que des fois, c'est avec les exemples qu'on arrive à illustrer, ça a été démontré en France que l'état nutritionnel, que ce soit en termes de surpoids, d'obésité, d'hypertension artérielle, de diabète, que l'état nutritionnel était lié aussi au type d'enseigne que l'on fréquentait, et notamment que les populations qui fréquentent le hard discount et qui bénéficient entre guillemets d'une offre alimentaire à bas coût, mais de très piètre qualité, sont ceux qui malheureusement se retrouvent dans les situations les plus difficiles sur le plan nutritionnel. Et donc, c'est un facteur d'inégalité, et c'est d'ailleurs le principal facteur des inégalités sociales de santé quand on regarde les modèles tels qu'ils ont été construits à l'étranger. Et donc, à considérer ainsi que le comportement, c'est un choix individuel et qu'il suffirait d'informer la personne rationnelle pour qu'elle change de comportement, on surresponsabilise les personnes, voire on les culpabilise. Donc, ça rajoute de la stigmatisation à la stigmatisation. Hein, voilà l'exemple de l'obésité de l'enfant et de ce qui peut être fait comme effet délétère de certaines interventions. Donc, on surresponsabilise les personnes et on déresponsabilise les vrais responsables qui sont les décideurs, finalement, quel que soit le niveau de décision. Pour vous donner un exemple qui m'a fait bondir tout récemment, c'est les 1000 jours. Vous connaissez les 1000 jours, c'est un enjeu extrêmement important, qui sont la grossesse et les 2 ans qui suivent. C'est un âge ou une période où beaucoup, beaucoup se joue en termes de santé. Et donc, dans le cadre des 1000 jours, un très beau site internet public a été mis en place. Et dans ce site, qui est compris sur le plan esthétique, scientifique, etc. Mais dans ce site, à un endroit, on va expliquer aux jeunes parents que dans les produits bébés, les produits d'hygiène pour bébés, de bien regarder les étiquettes, parce qu'il y a des produits d'hygiène pour bébés qui sont vendus en France, qui sont dangereux pour les bébés, perturbateurs endocriniens, etc. Mais on marche sur la tête. Si des produits sont dangereux, il faut les interdire, ou alors interdire de mettre une étiquette shampoing pour bébé. Et ce n'est pas demander aux parents d'aller lire des étiquettes qui sont d'ailleurs illisibles sur les produits cosmétiques, c'est encore pire que pour l'alimentaire. C'est un non-sens absolu. Mais bien sûr, faut pas être naïf. Le décideur s'achète une bonne conscience. J'ai informé, les gens font leur choix, mais ce n'est pas que de l'incompétence. Bien sûr, derrière, il y a le poids extrêmement fort. Et je pense que c'est important d'expliciter, parce qu'en France, c'est assez tabou, on n'ose pas trop en parler, alors qu'à l'étranger, ça rentre dans les modèles. C'est ce qu'on appelle les déterminants sociaux, les déterminants économiques de la santé ou commerciaux de la santé. Et le poids des lobbies économiques extrêmement fort aujourd'hui sur tous ces sujets. Enfin, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec les questions du Nutri-Score et autres. On a en France, en tout cas, un poids extrêmement fort et qui font qu'on fait reposer artificiellement sur des personnes des sujets de prévention alors qu'elles n'ont pas la main. Et des exemples, on pourrait les retrouver tous les jours. Voilà, dans ma région, par exemple, où le sujet des pesticides est un sujet extrêmement fort, comment on règle la question des pesticides et l'exposition aux enfants? On leur dit « fermez les fenêtres les jours d'épandage ». Mais on pourrait dire aussi « le boire avec consommer avec modération ». En milieu de travail, évitez le stress professionnel, apprenez à gérer votre stress plutôt que réfléchir aux organisations de travail, etc. etc. On peut multiplier les exemples à l'envi. Mais j'insiste et j'illustre parce que même si ce constat commence à être partagé, dans la stratégie nationale de santé, on parlait des déterminants sociaux de santé. Concrètement, aujourd'hui, dans les actions, dans les leviers, on est encore sur cette vision individuelle de la prévention et on n'a pas pris en compte concrètement ces éléments-là. Alors ceci étant dit, et je vais essayer d'aller vite parce que je sais qu'on n'a que 5 à 7 minutes avant d'ouvrir la discussion, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire agir sur ces déterminants sociaux? Là, si je reprends ce qu'avait écrit Ottawa de promotion de la santé, 86, c'est pas récent, je cite juste une ligne du préambule. La promotion de la santé va bien au-delà des soins. Elle inscrit la santé à l'ordre du jour des responsables politiques de divers secteurs en les éclairant sur les conséquences que leurs décisions peuvent avoir sur la santé. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé. Mais est-ce qu'en France, on peut arriver à le mettre en œuvre? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour le mettre en œuvre? En disant ça, moi qui travaille en pratique clinique préventive, je ne dis pas qu'il ne faut pas les autres actions. Mais les autres actions, finalement, viennent en complémentarité, voire en rattrapage. Par exemple, j'ai parlé de l'activité physique et de l'obésité. Ce n'est pas pour ça que le système de soins derrière ne doit pas prendre en charge, repérer, dépister des personnes qui sont en surpoids, en obésité, en diabète, hypertendue. Mais c'est du rattrapage. L'enjeu principal, c'est d'éviter, effectivement, de se retrouver dans cette situation et donc d'arriver à articuler d'abord la santé dans toutes les politiques, les politiques publiques saines, de mobiliser effectivement les leviers éducatifs. Je recite ce qui a été cité tout à l'heure, l'exemple d'Unplug chez les plus jeunes en milieu scolaire, de mobiliser aussi les structures publiques de prévention qui sont extrêmement importantes pour le repérage, le dépistage, la prise en charge, l'accompagnement, hein, que ce soit la santé scolaire, les PMI ou autres. Donc, quand je parlais de pas de manque de moyens en France, je parlais de façon globale, hein, on dépense plus de 15 milliards d'euros par an pour la prévention. Mais quand on est plus spécifiquement dans certains secteurs, et voilà, je parlais de la prévention organisée, là, effectivement, on se retrouve devant des difficultés majeures. Et enfin, effectivement, la mobilisation du système de soins pour éviter de rajouter de l'inégalité à l'inégalité, parce que si on fait toute la chaîne, voilà, je reprends l'exemple de l'hypertension artérielle, effectivement, de par les facteurs environnementaux, il y a des grandes inégalités sociales de risque d'être hypertendu, mais ensuite, le système de soins, au lieu de lisser ces inégalités, les aggrave parce qu'il y a moins de dépistage. Quand il y a un dépistage, il y a moins de prise en charge, il y a moins de suivi, etc. etc., etc. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faut construire. Et donc, concrètement, en quelques mots-clés, si on veut construire cette chaîne, qu'est-ce qu'il faut ? Et c'est là que ça rejoint beaucoup. Donc, je suis désolé de ce très, très long préambule avant d'en venir au fait, mais ça rejoint quand même beaucoup ce qu'ont dit les collègues. Mais je pense que c'est important de le remettre dans une stratégie globale. C'est d'abord, effectivement, d'avoir une vision globale des sujets de santé. Et comme ça a été souligné, la prévention, ce n'est pas la prévention du cancer, la prévention des maladies rénales, la prévention du cardiovasculaire. On est sur des sujets globaux et qu'aujourd'hui, c'est complètement segmenté avec plus de 80 plans de santé publique qui s'entrecroisent dans tous les sens. Donc, il y a besoin d'avoir une vision globale et qui prenne en compte la globalité des questions de santé. Et la crise Covid a été un très bon sujet pour montrer qu'on a du mal à avoir ça. Par exemple, chez les enfants en 2020-2021, on a suivi l'aspect, on a pris une posture infectiologique, mais on n'a pas regardé la globalité et les risques psychosociaux, fermeture d'école, etc. etc. Heureusement, bon, on a évolué depuis. Donc, une vision globale. Deuxièmement, un vrai pilotage, que ce soit au niveau national, régional, local. Aujourd'hui, c'est incompréhensible, que ce soit en termes de pilotage, en termes d'acteurs, en termes même de niveaux territoriaux, de la façon dont sont construits les différents territoires de santé. Troisièmement, ça a été souligné aussi, et par ailleurs, je suis président de la CRSA, donc je ne peux pas ne pas le dire, et surtout que cette année, on va célébrer les 20 ans de la loi de 2002, un pilotage démocratique, parce qu'on a mis de la démocratie en santé dans le système de soins, mais finalement, quand on regarde ce qui s'est passé en 20 ans, plus on en a mis dans le soin, plus on en a enlevé dans la prévention, plus on a enlevé d'autonomie, plus on a, que ce soit à l'échelle individuelle d'ailleurs ou à l'échelle collective. Alors que sur des sujets, comme j'ai abordé, sur les consommations alimentaires, les modes de vie, les consommations de substances psychoactives, si vraiment il y a des sujets où on ne peut pas faire sans les personnes, sans les groupes, sans les communautés, c'est vraiment ces sujets-là. Donc, réfléchir à la place de la prévention démocratie en santé ou la place de la démocratie en santé en prévention, ce n'est pas un sujet annexe. Ça me semble central. C'est une question de principe, mais aussi d'efficacité. Quatrièmement, définir des objectifs clairs à chacun des acteurs. Par exemple, on a demandé aux acteurs du système de soins, aux établissements hospitaliers comme le mien, de s'investir en prévention. Mais si on veut qu'ils s'investissent, il faudrait que ça soit pris en compte dans la certification, par exemple. Ça devrait être pris en compte dans le contrat d'objectifs et de moyens avec l'ARS, etc., etc., si on veut vraiment opérationnaliser. C'est très pragmatique, hein, ce que je dis, je suis désolé. Une démarche evidence-based, je reprends l'exemple d'Unplug, parce qu'effectivement, malheureusement, parce que ça se compte sur les doigts d'une main. Des programmes qui ont démontré leur efficacité en termes de changement de comportement, en termes de santé, malheureusement, il y en a très, très peu. Et que ce soit en termes de décision politique ou en termes de choix stratégiques de programmes, de financement, on a besoin d'être un peu plus evidence-based. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, non seulement on met en place des programmes inefficaces, je reprends l'exemple addiction chez les jeunes, donc d'âge scolaire avec Unplug. Aujourd'hui, ce que montrent les revues, c'est que 2/3 des programmes sont inefficaces, donc c'est une dépense de moyens, et qu'on a un certain nombre de programmes qui sont en plus délétères. Hein. CF, l'évaluation qui a fait la 1000DK il y a 4 ans sur 4 programmes nationaux français, dont Unplug, autour prévention alcool, tabac, drogue chez les jeunes d'âge scolaire. C'était 4 gros programmes, on n'était pas sur des petits programmes, on était programmes plus régionaux, etc. Sur les 4 programmes qui ont été évalués, bon, je vais raccourcir, 2 ont montré qu'ils étaient efficaces, moins de consommation d'alcool, de drogue et ou de cannabis chez les jeunes, et 2 étaient délétères. bénéficier du programme faisait augmenter les consommations. Donc, ce n'est pas négligeable de parler d'evidence-based. On est très, très loin en prévention. On n'est malheureusement pas comme dans le système de soins, avec des procédures très nettes, hein, d'autorisation de mise sur le marché, etc. Chacun peut bricoler ce qu'il veut de son côté, donc c'est bien, c'est de la créativité, mais ça participe à l'efficacité globale du système. Et je terminerai là, puisque j'ai bien eu le petit message. Pour tout ça, on a besoin d'avoir derrière une infrastructure. Quand je dis infrastructure, c'est de la recherche. Si on veut des données probantes, il faut les développer. Un système d'information, ça a été cité tout à l'heure, c'est pour ça, hein, ça rejoint quand même pas mal, de l'évaluation, etc., etc. Et au service de la prévention, on a besoin de structurer toute cette expertise qui, aujourd'hui, malheureusement, a du mal. Hein. Il y a des structures comme les IREPS en région, mais qui sont financées au lance-pierre, avec des statuts qui sont complexes. Donc, c'est vraiment, on a vraiment besoin de réfléchir aussi à tous les supports qu'il faut avoir pour développer la prévention. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, mais je pense que la discussion permettra peut-être de prolonger si besoin. Et pour terminer quand même sur un mot, on parle de la crise hospitalière, de la charge hospitalière, même actuellement, dans le cadre de la crise Covid. Hein. Pour rappel, 50% des hospitalisations sont liées à des facteurs évitables par la prévention, aujourd'hui en France, hors Covid. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre extrêmement importante. Merci.
Merci beaucoup, François. Non, c'est très important de replacer un contexte global comme vous l'avez fait. Didier Bazouki, est-ce que tu veux prendre la parole? Que pense le CRAPS de la question de la prévention et quelles sont les préconisations que vous en faites?
Oui, merci. Donc, Didier Bazouki, vice-président de CRAPS. Je vais surtout intervenir d'ailleurs avec des réflexions personnelles, mais qui rejoignent très clairement la ligne qui est celle du CRAPS, qui est de donner un rôle important aux acteurs de terrain, et ça a été dit d'ailleurs, et je rejoins totalement ce qui a été dit, aux acteurs de terrain voilà. Donc, moi, je voudrais faire une première remarque, parce que je suis le moins expert de la table ronde sur ces questions, et donc je me suis surtout intéressé à des questions de gouvernance de cette prévention, et donc je vais vous livrer quelques réflexions pour partage et discussion. Premièrement, j'ai commencé par relire l'article 114-111 du Code de la santé publique, parce qu'il date de 2002, il a été complété en 2004, plus récemment encore d'ailleurs, et au fond, il y a tout là-dedans. On peut juste s'étonner que ce ne soit pas appliqué, quoi. Alors qu'on y met 15 milliards d'euros. C'est assez troublant quand on regarde ça, et notamment... Ce code de la santé publique, il dit clairement, quasiment en préambule, la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Très bien. Et puis ensuite, il décline tous les axes dont vous avez certains cité différentes parties. Et je trouve que, en effet, près de 20 ans après la loi de 2002, qu'on ait ce constat est assez troublant. Et il faut se demander ce qui se passe en termes de gouvernance. Alors. Je crois que ça, c'est vraiment une des questions par laquelle il faut rentrer. Alors, moi, quand on parle de prévention, je suis toujours un peu gêné parce que, moi qui étais assureur, pour moi, la prévention est un outil ou un ensemble d'outils au service d'une politique, que ce soit une politique de santé publique, que ce soit une politique de gestion du risque, en réalité, et vous l'avez d'ailleurs d'une certaine manière dit les uns et les autres. Je crois que c'est Sophie qui disait il y a une multiplicité d'objectifs de santé publique, il y en a 500, ou c'est Béatrice, je ne sais plus. Très clairement, d'abord, qu'est-ce qu'on veut en matière d'objectifs de stratégie de santé publique, d'objectifs de santé publique ou d'objectifs, et j'y viendrai, de gestion du risque. Parce que cette prévention, ces techniques de prévention, ces stratégies de prévention, si elles ne sont pas au service d'objectifs clairs, on voit bien que ça se disperse et qu'on consomme énormément d'argent avec des résultats finalement que vous avez tous et toutes décrits comme finalement relativement décevants. Pour ça, j'aimerais prendre quelques exemples. Alors, je vais prendre un exemple dans le domaine de sujet de santé publique qui m'avait frappé il y a quelques années. C'est sur le sujet de l'obésité et l'excédent de poids. Monique Romont, qui était la chef de service de nutrition au CHU de Lille, avait conduit avec l'ARS des Hauts-de-France une opération très intéressante sur les fonds d'intervention régionaux qui consistait en s'appuyant sur les associations de quartier à avoir des actions en profondeur sur la question de la nutrition des jeunes et de la lutte contre les excès de poids des jeunes. Ça a eu des effets, elle l'avait mesuré. Et puis, le FIR, c'était 3 ans, ça s'est arrêté et tout est tombé. C'est-à-dire que ça a été un considérable gâchis. Alors, ça n'est qu'un exemple, mais j'imagine que vous en avez plein comme ça dans la tête. Ce qui montre bien qu'il y a derrière ça une question de gouvernance. Qui gouverne dans la durée ces sujets? Qui fixe un cap et qui est garant de ce cap dans la durée? Je pense que quand on pose les questions comme ça, on pose, me semble-t-il, les questions de gouvernance. Je vais prendre d'autres exemples dans un domaine qui relève en effet, et Sophie l'évoquait tout à l'heure sur le rôle des assureurs de santé, des rôles des complémentaires, qui en effet font plein de trucs, mais en réalité elles font plein de choses de manière accessoire et sans que ça relève de leur modèle économique. Et je pense que ça c'est un vrai sujet et ça pose la question de la gestion du risque. Quand on est par ailleurs, et évidemment ça n'a rien à voir avec la santé, sur des risques industriels, la prévention est un des outils parmi beaucoup d'autres qu'on a pour gérer le risque. Alors, il y a plein d'outils évidemment qui ne s'appliquent pas à l'univers de la santé quand on est sur des risques industriels, mais si on aborde la prévention par de la gestion du risque, et ça vaut en particulier pour les préventions secondaires et tertiaires, on a un objectif clair qui est de réduire un risque. Et pour réduire ce risque, on engage une stratégie organisée, chiffrée, évaluée, de prévention. Et François le disait tout à l'heure, d'où la nécessité d'ailleurs d'avoir des systèmes développés de base comme qu'on n'a pas. Et je vais prendre quelques exemples que des assureurs ou des institutions de prévoyance ont conduit ces dernières années. Parce que, en fait, il faut distinguer, me semble-t-il, ce qui relève de l'action publique, du service public, pour toutes les populations, et en particulier les populations défavorisées, et avec une nécessaire priorité probablement en termes de justice sociale sur les populations qui en ont le plus besoin, François le disait, de ce qui relève du pilotage du risque pour des populations professionnelles qui sont insérées et dont on connaît beaucoup mieux la prophylaxie. Et j'ai 2 exemples en tête de sujets intéressants réalisés par 2 institutions de prévoyance différentes. L'une qui est très ancienne sur le traitement du diabète pour les boulangers et qui avait produit des effets intéressants. Et l'autre, plus récente, sur le transport routier. Les chauffeurs routiers font l'objet de risques très particuliers. Ils ont évidemment des risques de lombalgie, ils ont des risques d'endormissement, ils ont des problèmes de vue. Et cette association, cette institution paritaire, a monté un système de prévention en liaison avec les syndicats médicaux pour organiser des visites de prévention régulières. Et donc ça, ce sont des choses très concrètes, mais à chaque fois, ça répond à un objectif identifié. Et j'en prendrai d'ailleurs un troisième qui est plus étonnant, mais qui là aussi s'inscrit dans un cadre professionnel, qui est dans le secteur de la défense et de la marine. Il se trouve que l'armée constate qu'il y a un excès de poids chez certains marins et que ça pose des problèmes de maintien en condition opérationnelle des forces de défense. Et donc, on a un objet de risque qui est très identifié, c'est le risque de perte de conditions opérationnelles de défense, et on monte un programme de prévention. Et on le montre sur le terrain. Et ce qui est caractéristique, et ces expériences qui, me semble-t-il, sont toutes les trois intéressantes, elles ont été montées sur le terrain et elles ont été réalisées avec des actions de formation, des actions d'accompagnement sur le terrain par des professionnels du secteur. Et ça, je crois, moi, vu de là où je parle, que c'est un sujet tout à fait important. Alors, quelles conséquences on peut en tirer très rapidement? À mon avis, je voudrais vous proposer 2 pistes de réflexion. Pour faire confiance au terrain, et Sophie le disait aussi d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 niveaux. Il y a un niveau évidemment qui concerne la politique de santé publique et la sûreté pour les citoyens, et ça c'est du domaine régalien de l'État, personne ne le contestera. En revanche, je voudrais poser une question. Est-ce que l'État est le mieux placé pour mettre en œuvre tout ça en direct ou est-ce que, en effet, il ne faut pas s'appuyer plus, et bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, sur les régions, et c'est un sujet de travail et de réflexion assez constant sur différents domaines, sur le domaine de l'emploi également, d'ailleurs, au CRAPS, sur les régions qui, d'une région à l'autre, ont à connaître, à traiter de sujets de santé publique, de sujets d'emploi aussi d'ailleurs, de sujets de logement qui sont très différents. Les problèmes de santé publique dans la région des Hauts-de-France et dans celle de Paris-Centre, je prends Paris-Centre parce que l'Île-de-France est une région très, très diverse et donc on y trouve à la fois des ruraux et des urbains, donc c'est très hétérogène, mais ils sont de nature bien différente. Et il nous semble grave que la région est un lieu de, non seulement de réflexion, mais aussi d'action importante. Et donc ça soulève une question de gouvernance, c'est-à-dire que quand on regarde l'article 14.11-1 du CSP qui dit que l'État est le responsable, et qui a d'ailleurs, il dit juste dans un alinéa que ça se fera en liaison avec les régions, mais en réalité, on ne donne pas de rôle aux régions dans l'état actuel du cadre légal. Donc il y a une vraie question, à mon avis, d'évolution de cette gouvernance, de manière à ce que les régions puissent être impliquées. Si le cadre légal ne donne pas aux régions des prérogatives et des objectifs dans ce domaine, on ne voit pas bien comment elles le seraient, en fait, de manière structurelle et organisée. Donc ça me semble être une question de gouvernance. Et puis pour les salariés, d'une manière générale, des branches professionnelles, on peut aussi faire le constat que l'État n'a pas fait confiance aux partenaires sociaux et aux branches professionnelles. Certes, les complémentaires font ici, quand elles le peuvent, et d'ailleurs sur leur budget et sur leurs réserves, sur leurs fonds propres, des actions de prévention. Mais ça n'est pas duplicable, ça n'est pas amplifiable s'il n'y a pas un modèle économique. Et pour qu'il y ait un modèle économique, il faut que la question de la gestion du risque soit clarifiée. Aujourd'hui, je prends un exemple de gestion du risque, qui est l'arrêt de travail. Sur l'arrêt de travail, personne n'est responsable de rien. Or, l'arrêt de travail est un vrai beau sujet pour construire à partir de la gestion du risque arrêt de travail des actions de prévention, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires. Donc, cette question de la gestion du risque, pour les populations que je qualifierais d'incluses, hein, pour la différencier de manière très artificielle et bien sûr grossière, de ce qui relève de l'action de santé publique, de rééquilibrage dans un terme de justice sociale, mais pour ces populations qui sont insérées dans des univers professionnels, dans les branches professionnelles, la question de la gestion du risque qui pourrait, devrait, je ne sais pas, être confiée à des acteurs qui sont présents dans ces branches professionnelles. Alors, ce sont évidemment les partenaires sociaux, ce sont les instituts de prévoyance et assureurs de santé qui sont présents. Si on ne leur confie pas la gestion du risque, ils auront énormément de mal à conduire des actions de prévention qui soient autre chose qu'un émiettage d'actions assez ponctuelles et en effet dont on ne voit pas la cohérence et la visibilité. Bon, voilà, donc ça me paraît être un vrai grand sujet. Vous voyez, moi j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion et qu'on dise, mais finalement, pour que les choses se structurent, il faut aussi toucher à la gouvernance et pas uniquement à l'organisation, parce que cette gouvernance, elle va déterminer une organisation de terrain qui sera peut-être différente. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et peut-être je répondrai dans le jeu des questions et des réponses à la question de Sophie sur le rôle des complémentaires, parce que j'y ai déjà un peu répondu, mais je pourrais compléter.
Merci beaucoup, Didier. Je crois que vraiment cette question de gouvernance est quelque chose d'important. Sur la gouvernance, on a eu en particulier l'intervention des électrons qui y fait part, mais on n'a pas entendu vraiment la gouvernance vue par l'Observatoire de la régionalisation, par exemple. Fabienne, qu'est-ce que on pourrait en dire au niveau de l'Observatoire sur cette gouvernance ? Autre chose, je vous propose de remonter vos différentes questions en allumant votre petite main jaune ou en mettant des questions dans le chat, comme vient de le faire d'ailleurs James Goldberg, qui nous a donné un certain nombre d'éléments d'informations. Je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à activer votre main jaune pour que vous puissiez prendre la parole et également poser des questions à nos différents intervenants. Fabienne, question de la gouvernance pour l'Observatoire.
Effectivement, on avait abordé pas mal ce sujet-là dans les différentes réunions qu'on avait eues ensemble au sein de l'Observatoire de la régionalisation. Ça ne concernait pas spécifiquement la prévention. C'est pour ça que sur le temps imparti, j'ai choisi d'être plus sur le temps de la prévention. Ce qu'on s'est dit, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne doit pas, c'est une responsabilité qui dépasse celle du système de santé. Parce que, comme on disait, notamment le conseil régional, à des responsabilités dans les prérogatives de l'emploi, de la formation, de l'aménagement du territoire dont je n'ai pas parlé, et aussi de l'aménagement des lycées. Et on a aussi des responsabilités autres sur les départements, sur d'autres questions qui sont celles de la protection de l'enfance, etc. Et en fait, ce cloisonnement des responsabilités empêche particulièrement sur le sujet de la prévention d'aboutir là-dessus. D'ailleurs, voilà, Midelka, c'est interministériel. Enfin, certainement qu'il y a quelque chose à inventer qui manifestement n'existe pas aujourd'hui de l'ordre de la responsabilité à l'échelle de ce qui nous semble, nous, être la meilleure échelle, qui est celle de la région. Il avait été évoqué un conseil d'administration au niveau des ARS qui soit ouvert. Moi, personnellement, je pense que ça dépasse les attributions des agences régionales de santé qui ont été bâties sur un système d'offres de soins et qui n'ont pas toutes les compétences, les prérogatives et puis pas d'action comme par exemple l'ont les préfets sur d'autres types de sujets. Donc, il y a vraiment une gouvernance dont on pense, enfin, je crois qu'au sein du groupe, on était tous d'accord, on pouvait dire que la mise en œuvre et le contrôle doivent pouvoir se faire à l'échelle de la région et se déployer à l'échelle locale. Enfin, du coup, une région, ça peut aussi piloter le côté local, si tant est que les régions ne soient pas trop immenses, comme la dernière loi NOTRe a été un petit peu à créer des régions à dimension variable. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais cette gouvernance, elle doit être vraiment sur intégrer aussi la démocratie. On était aussi tous d'accord sur ce point-là. Donc, ce que vous avez évoqué les uns et les autres, ça m'a évoqué un certain nombre de discussions qu'on avait pu avoir les uns avec les autres. Par contre, là, ça va être ma vision des choses, mais moi qui suis employée par une mutuelle, un organisme d'assurance mutualiste qui opère de la complémentaire santé, de la prévoyance, etc. Enfin, c'est encore une fois faire reposer sur d'autres la responsabilité, enfin, du management de l'organisation qui est délétère. Ça fait peser le poids de ça sur les salariés qui cotisent pour se payer une complémentaire santé. Donc, moi, je pense que la responsabilité, elle doit être celle aussi des responsables politiques qui doivent rendre des comptes sur les attributions financières qu'ils font et sortir de l'électoralisme et être sur l'evidence-based medicine dont on parlait tout à l'heure, les données probantes des effets. Et on a pas mal parlé d'unplug. Moi, j'ai été sidérée lors de la présentation, lors du congrès de Santé publique France, de la présentation de ces résultats. Enfin, moi, ça m'a laissé scotché. Je me suis dit, enfin, quelque chose qui montre ses preuves en prévention, qui est une action sociétale, etc. Mais tous les gens, y compris les médecins de santé publique, à qui je parlais de ça après, ne se sentaient pas concernés parce que chacun était dans sa propre prérogative de « moi, je suis chargée de santé publique dans tel domaine » ou par telle unité locale, ou par telle ceci ou cela. Et je crois qu'il n'y a que la responsabilité politique à l'échelle, je pense, de la région, qui doit être porteur de rendre des comptes sur aussi l'amélioration de ces indicateurs-là, et pas que sur le point de vue des élections et des électeurs, mais rendre des comptes aussi aux partenaires sociaux qui doivent aussi pouvoir faire réfléchir les choses dans ce sens-là. J'espère être claire.
Oui, non, mais tout à fait, c'est tout à fait intéressant, cette vision interministérielle, donc au niveau de l'État, une vision plus transversale au niveau de la région, avec un décloisonnement des actions qui ne doivent pas concerner uniquement les ARS, et puis des actions au niveau local. Ça, je pense que ça fait partie des choses importantes. Il y avait la question du financement également, avant de passer la parole à Antoine Priou. La question du financement, l'Observatoire de la régionalisation, Fabienne, vous avez dit le financement ne doit pas reposer sur la sécurité sociale. Est-ce qu'il doit reposer un peu sur la sécurité sociale ou pas du tout sur la sécurité sociale? Et deuxièmement, s'il ne repose pas sur la sécurité sociale, on le trouve où?
En termes de ressources.
La question de Sophie revient également pour Didier.
En termes de ressources, évidemment, le système de santé, les acteurs de santé sont des ressources formidables et mobiles qu'on doit mobiliser sur la prévention, c'est certain. Sur les actions à mettre en œuvre, on ne peut pas considérer que l'entreprise n'a aucun rôle à jouer, on ne peut pas considérer que l'école n'a aucun rôle à jouer, on ne peut pas considérer que les autres acteurs de l'environnement, les constructeurs, enfin que sais-je, n'ont pas de rôle à jouer là-dessus. Et c'est là où ils doivent contribuer également à cela.
Ça veut dire qu'en fin de compte, le financement, ça doit dépasser la notion purement de moyens budgétaires mis à disposition pour pouvoir valoriser également, ce qu'on ne fait jamais dans le système de santé d'ailleurs, le rôle des acteurs, que l'acteur soit un comité d'entreprise, que l'acteur soit un conseil départemental, un CCAS ou autre chose. François, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, complètement. Hein. D'abord, en termes de financement, aujourd'hui, de facto, le financeur numéro un de la prévention, c'est l'assurance maladie. C'est ce que je citais, hein, plus de 15 milliards d'euros. Et là aussi, il y a des marges de manœuvre à faire. Voilà, je vous reprends l'exemple de l'hypertension. Actuellement, en France, un patient sur cinq est traité à tort. Ça représente 400 millions d'euros de traitements indus. Donc, ça pose bien sûr un problème de qualité de vie, avoir un traitement à vie qui ne sert à rien, mais c'est aussi un problème économique. C'est-à-dire que, aussi en prévention, il y a aussi un enjeu de pertinence. Hein. Et 400 millions d'euros, on distribuerait ça aux acteurs de terrain, je pense qu'ils seraient ravis. C'est pour dire qu'il y a un modèle économique effectivement global à voir, et aussi une valorisation de ce que font, comme vous le soulignez, chaque acteur. Pour vous donner un exemple très concret, il y a la mairie d'une grande ville, pas très longtemps, en disant voilà, on veut s'investir en prévention, on va aller dans les écoles, et qu'est-ce qu'il faut qu'on cible ? C'était ça la question qu'il me posait. Est-ce qu'il faut qu'on aille voir les enfants pour leur parler de tabac, ou d'alcool, ou d'activité physique, etc. Moi, j'ai dit, mais en tant que ville, en tant que collectivité territoriale, ce n'est pas en allant faire de l'éducation à la santé à l'école votre plus-value. C'est le logement, c'est les espaces verts, c'est l'aménagement urbain, c'est votre politique culturelle, c'est la politique transgénérationnelle. C'est comme ça que vous faites de la santé, c'est comme ça que vous produisez de la prévention. Et c'est vrai que tous ces aspects qui sont essentiels, et qui d'ailleurs dans cette ville fonctionnaient plutôt bien, ne sont pas chiffrés, ne sont pas mesurés. Et c'est tous ces acteurs de prévention qui sont les collectivités territoriales, qui sont ce que vous avez cité, hein, les acteurs du monde de l'entreprise, etc. etc. Effectivement, quand on chiffre la prévention, ça passe à côté. Donc c'est extrêmement difficile à valoriser sur le plan économique, mais c'est extrêmement important.
Didier, un mot sur les complémentaires, pour répondre à Sophie. Ouais. Et puis ensuite, la parole à Antoine.
C'est une politique à la mode, je voulais dire, finalement, les complémentaires ont de l'argent, elles n'ont qu'à faire de la prévention. En fait, si on prend le problème comme ça, on ne règle rien, parce que vis-à-vis des 15 milliards qui sont déjà engagés, ça ne changera rien, ça sera à la marge. Hein, parce que, grosso modo, l'ensemble des prestations payées par les complémentaires, c'est 30 milliards, vous voyez, donc ça n'est que deux fois le budget de la prévention, finalement. Hein, Et pour ça, c'est 30 milliards de prestations servies sur l'ensemble des dépenses engagées par les assurés. Mais je voudrais reprendre au vol ce que disait François sur l'hypertension. On voit bien que dès lors qu'il y a une consommation inappropriée, massive, sur une pathologie donnée, il y a un objet de gestion du risque. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut privatiser la gestion du risque. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que sinon, je vais être brûlé en place publique. Mais clairement, pour qu'un opérateur, qui soit de nature, qui soit public ou privé d'ailleurs, hein, ce n'est pas la question, pour qu'un opérateur puisse engager de la prévention, dont on ne sait pas bien d'ailleurs toujours s'il y a un retour sur investissement au regard de la seule prévention elle-même, n'est-ce pas ? Mais pour qu'un opérateur, qu'il soit public ou privé, que ce soit l'assurance maladie ou une complémentaire, puisse faire de manière structurée, durable, de la prévention sur la population assurée, et encore une fois, là, je ne parle pas de toute la dimension de santé publique avec tout le sujet qui est en dehors du système de soins, comme l'indiquait François précédemment. Je parle de ce qui est directement relié au système de soins et donc aux pathologies et donc à de la prévention secondaire et tertiaire essentiellement. Hein. Eh bien, il faut lui confier la gestion du risque. Il faut qu'il ait un mandat de gestion du risque. On ne fait pas de la prévention durablement sans avoir un risque à gérer qu'on porte dans ses comptes et duquel on est comptable. Et ceci dans un environnement qui est ou pas concurrentiel. Ça, c'est un choix, pas de société, mais c'est un choix d'orientation de mettre ça dans un monopole d'État ou de mettre ça sur le marché. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais quel que soit le choix qui est fait, il y a bien un sujet où, à un moment donné, celui qui engage, qui rembourse des dépenses de santé, qui paye des dépenses de santé, il a la capacité ou pas à peser sur ses dépenses de santé, et il pèse de différentes manières, et une des manières qu'il a, évidemment, c'est de réduire la fréquence du risque, sa probabilité et son amplitude, et à cet égard, aussi bien la réduction de la fréquence que de l'amplitude du risque par la prévention secondaire et tertiaire, c'est évidemment le levier qu'il a pour gérer ce risque et rentrer dans un cercle vertueux économique. Il n'y aura pas de prévention significative faite par les complémentaires si les complémentaires n'ont pas des risques à gérer. Alors, après, voilà, ça peut être le risque arrêt de travail, ça peut être des risques identifiés sur des sujets qui correspondent à une politique publique de santé. Ce n'est pas mon point. Il ne m'appartient pas de prendre une position là-dessus. Mais encore une fois, il y a un principe de réalité, il y a un principe de gravitation sur le sujet. C'est quand on est responsable d'un risque, on le gère. Et pour le gérer, un des outils, c'est notamment la prévention. Sachant que, bien entendu, en matière de santé en France, et je le redis pour que ce soit clair pour tout le monde, les complémentaires n'ont pas le droit de sélectionner les risques, elles n'ont pas le droit d'exclure les risques, elles n'ont pas le droit de faire de tarification individuelle. Donc, il ne s'agit pas, quand on parle de gestion du risque, d'utiliser un quelconque de ces trois sujets dont je viens de parler. Il s'agit uniquement de pouvoir peser sur la manière dont les soins sont efficaces et dans la manière, d'ailleurs, y compris en termes d'observance des traitements, les patients sont incités à observer un traitement. Un des sujets classiques...
Didier, il faut qu'on soit court parce que... Ouais.
Un des sujets classiques, qui paraît banal, c'est dans le dentaire, si vous confiez la gestion du risque dentaire à des complémentaires, vous allez avoir une visite de détartrage et de contrôle annuel qui sera pris en charge par l'opérateur, par l'assureur, parce que c'est son intérêt. Je prends un exemple trivial.
Si je peux juste, c'était le sens de notre proposition. Hein, je doutais pas que vous alliez. Je suis pas surprise de votre réponse. C'est évident. Donc je tenais à le préciser. Et je voulais juste préciser sur la pertinence des actes. Je pense quand même que c'est déterminant. Hein, quand on voit les expérimentations article 51 de coordination des acteurs, les leviers de financement, c'est ça. C'est éviter les actes redondants, prévenir des rechutes, des réhospitalisations, faire des économies de transport. Je pense qu'avec une réflexion globale, on a des leviers financiers pour financer quand même une partie des actions qu'on veut développer.
Exactement. Et je voulais juste ajouter qu'on voit bien ce que vient de dire Sophie, c'est que c'est bien un élément de la gestion du risque, la prévention.
Tout à fait.
Très bien. Je voudrais passer la parole à Antoine Priou.
Merci Olivier, bonsoir à toutes et tous. Antoine Priou, je suis pharmacien d'officine en milieu rural, je coordonne une maison de santé universitaire et je suis administrateur de la Fédération des maisons de santé, avec santé. J'interviens vite fait, simplement pour vous parler un peu de ce qu'on fait. Vraiment, c'est du bidouillage, c'est du MacGyver sur des territoires extrêmement contraints en termes de santé publique, mais le fait de travailler en équipe nous permet de faire de la production de données participatives. Dossier patient, c'est un peu comme un Wikipédia, chacun y vient y mettre un peu d'informations. Et à l'échelon d'un territoire, on est capable d'avoir des bases de données consolidées. Alors, c'est de la small data. Hein. Mais moi, en trois requêtes, là, je peux vous sortir le nombre de fumeurs que j'ai sur mon territoire. Et j'ai leur 06, j'ai leur adresse mail, j'ai même une petite barquette à leur nom à la pharmacie. Donc, en clair, je peux faire passer un message, je peux inclure des patients dans des protocoles de santé publique, de prévention, etc. Et donc, je peux commencer à faire de la gestion du risque en santé communautaire parce que, comme vous le savez, une maison de santé ou un centre de santé est très ouvert sur l'implication des patients. Et puis maintenant, on a même des systèmes d'information partagés, en plus en open source, qui permettent aux partenaires potentiels en santé communautaire de se signaler, etc. Ce qui fait que, sans fournir des accès à des bases de données sensibles de type santé, on est capable d'ouvrir maintenant des espaces à des élus, à des associations, à des citoyens lambda, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a des bases de données structurées avec les déterminants de santé, les états cliniques dans le temps, des données médico-économiques de parcours, les données paracliniques, etc., etc. Alors certes, c'est des micro-bases territorialisées, mais elles sont en clair. Vu qu'on peut les mouliner au sein de notre équipe, on n'a pas besoin de faire des dépôts à la CNIL dès qu'il faut mouliner des données et utiliser notre logiciel un peu comme un un logiciel de gestion de la relation client, hein, pour ceux qui sont dans le côté entrepreneurial, mais ça nous permet de communiquer avec des pools de patients sur telle ou telle pathologie ou problématique, etc. Et nous, on pense que c'est vachement intéressant dans les maisons de santé. Donc, on est en train, avec les petits copains là, de la fédération, de voir comment est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, pseudonymiser, faire remonter quelques bases et puis devenir peut-être un espèce de health data hub des soins de premier recours, surtout pas hébergé chez un fournisseur d'hébergement soumis à l'extraterritorialité du droit américain, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, de dire à quel moment on pourrait fournir ça à des chercheurs. Parce que elle est où la recherche interdisciplinaire en soins de premier recours, les mains dans le cambouis, les pieds dans la bouse, mais la tête dans la lune. On la cherche. Voilà. Donc, bienvenue. Allez, et bonne soirée à tous.
Merci. Merci pour cette proposition. Je pense qu'elle rejoint la question des données, et ça, c'est tout à fait important. Il y a Nedic, qui, je ne sais pas qui vous êtes là, Nedic. Il voulait poser une question.
Non, je n'ai pas posé de question particulière. Je n'ai pas de question particulière à poser.
Ah bon, très bien. C'est parce que je voyais votre main jaune s'allumer.
Je n'ai pas bougé ma main, pourtant.
Bon. Alors, Marc Burquin. Ah, on ne vous entend pas, Marc. Marc, vous êtes en mute.
Bonjour, non. Excusez-moi. Voilà. C'est bon, là ? Non, bonjour. Alors, pardon, je suis arrivé en cours et puis j'ai été un peu interrompu par un coup de fil impromptu, mais j'ai entendu quand même une bonne partie des échanges. Je voulais quand même dire une chose, c'est que évidemment la prévention, c'est totalement multifactoriel, totalement interministériel. Mais, et là, je rebondis sur l'intervention précédente, il faut quand même un principe de responsabilité. C'est-à-dire, oui, la santé, ça dépend de multiples facteurs, la qualité de l'air, les transports, etc. Mais si on dit que tout est dans tout, à la sortie, comment agir ? Et donc, je pense que l'une des clés, ça serait quand même que sur un territoire, et là pour le coup, peut-être pas au niveau de la région, mais dans un territoire plus réduit, les acteurs de santé, hospitaliers, sanitaires et médico-sociaux, publics, privés, quelque part, une part de leur rémunération deviennent dépendantes de l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs qui pourraient être travaillés avec les agences régionales de santé, avec l'assurance maladie, de manière à ce qu'il y ait une vraie rétribution de la prévention. Parce que c'est quand même un travail nouveau que de faire des actions pour apprendre aux gens à bien manger, apprendre de lutter contre les différentes addictions. Enfin, on pourrait. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, notamment quand ils sont rémunérés à l'acte ou à l'activité, en réalité, il faut bien se poser la question de savoir pourquoi on n'avance pas sur ces sujets en France, pourquoi on a une espérance de vie relativement correcte, une espérance de vie en bonne santé qui n'est pas satisfaisante et qui ne progresse plus, c'est aussi parce que la prévention, aujourd'hui, elle coûte aux acteurs, elle ne leur rapporte pas. Voire, au contraire, dans certains cas, on pourrait même considérer qu'elle pourrait réduire leurs ressources, paradoxalement, si elle réussit. Donc, il faut renverser la table et dire qu'une part de la rémunération doit être fonction de l'amélioration d'indicateurs de santé qui pourraient d'ailleurs globalement se synthétiser dans un territoire par la progression de l'espérance de vie en bonne santé. Mais après, ça peut se décliner par quelle est l'évolution de l'incidence de tel ou tel cancer, l'évolution de l'obésité, du diabète, etc. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis, je voudrais en mettre un deuxième et qui, lui, est plus délicat sur la table. C'est celui des patients eux-mêmes. Est-ce que c'est absurde de dire, au fond, est-ce que là aussi, il ne faudrait pas inverser l'ordre des facteurs ? Plutôt que de dire, quand vous demandez un soin, vous avez un reste à charge, est-ce qu'il ne faudrait pas dire l'inverse ? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, quand vous rentrez dans un parcours de prévention, alors avec tous les X, une consultation globale, alors peut-être tous les ans, tous les 5 ans, enfin ça dépend de l'âge, des dépistages, etc. Eh bien, à partir du moment où vous avez fait ces actes de prévention, vous n'avez plus de reste à charge. Et c'est seulement si vous ne faites pas ces actes de prévention que vous en avez un. Je voudrais donner l'exemple de, et après je m'arrête parce que je ne veux pas être long, mais En Scandinavie, sur la question bucco-dentaire, quand on a un problème bucco-dentaire, mais qu'on a fait les actes de prévention, on n'a pas de reste à charge. En revanche, si on ne les a pas fait et qu'on a une carie, alors là, on paye. Eh ben, je trouve que là, il y a quelque chose à creuser dans un principe de responsabilisation, mais qui ne soit pas vous payez parce que… on a longtemps pensé que le ticket modérateur, comme son nom l'indique, et d'ailleurs, dans son nom, on voit bien le contresens. Le ticket modérateur, il modère rien du tout. Il exclut du soin les plus modestes ou les plus loin du soin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envoyer un signal en disant on va inverser l'ordre des facteurs et s'inscrire dans une démarche de prévention, ça permet de ne plus avoir de reste à charge. Et ça, je pense que… Et on a un exemple. Et là, la FHF vient de se positionner là-dessus par rapport aux 20 euros qui seront demandés en forfait d'urgence. Nous, on dit plutôt plus de reste à charge pour ceux qui seront passés par le service d'accès aux soins. C'est-à-dire, à partir du moment où on sera passé par la plateforme téléphonique qui va éventuellement nous donner une solution pour ne pas aller aux urgences, eh ben, si la plateforme dit « oui, il faut que vous alliez aux urgences eh », ben, on ne paye pas.
Je pense qu'il y a des choses qu'il
faut creuser.
Alors, Didier, Olivier, je peux dire un mot là-dessus? Moi, je voudrais dire que c'est un sujet qui, sur le plan éthique, est extrêmement délicat. Parce que pour les populations insérées, et sur le dentaire, c'est facile. Pour les populations désinsérées, qui ne sont pas en capacité de gérer leur état, leur capital santé, c'est quand même beaucoup plus difficile à imaginer. Et j'ajouterais qu'en plus, et je reviens, et d'ailleurs ça fait écho à l'intervention précédente du pharmacien, il faut faire confiance aux gens de terrain et aux corps intermédiaires. C'est-à-dire que aussi bien pour recueillir de la donnée, traiter de la donnée et accompagner des gens, c'est ce que les Canadiens avaient inventé dans les années 80, hein, qui a assez bien marché en termes de prophylaxie dans les centres locaux de santé communautaire. C'est sur le terrain que la donnée est pertinente parce qu'on connaît les gens. Hein. C'est pas dans… Alors, bien sûr qu'il faut en remonter pour faire de l'étude statistique, mais donc, en termes d'action, c'est là que c'est important. Et par ailleurs, il me semble qu'il faut aussi faire confiance à la démocratie, alors qu'on l'appelle sanitaire ou sociale, comme on veut. Il y a un moment des gens qui se mettent autour d'une table et qui sont représentants des assurés ou de salariés, de professionnels, de communautés, et qui, ensemble, conviennent de ce qui est souhaitable pour la communauté en question, qu'elle soit professionnelle ou sociale. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Il faut bien se garder sur ces sujets-là qui soulèvent très rapidement des questions éthiques, d'en faire un règlement national ou avoir un système descendant qui va imposer ça à tout le monde. Parce que voilà, c'est assez évident comme remarque, mais je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête.
Alors, peut-être juste
Marc.
Oui.
Si je peux me permettre, on laisse répondre François également, puisqu'il voulait intervenir sur la question.
Oui, mais c'était parce que ça a répondu directement. Enfin bon.
Et il nous reste 8 minutes, donc même si je prends 5 minutes supplémentaires.
Donc je vais essayer d'aller vite, mais puisqu'on a parlé avec Antoine et par la suite de la mobilisation du système de soins sur la prévention, soit par l'angle du système d'information, de la responsabilité populationnelle, du mode de rémunération, ou alors du côté patient, je pense que là aussi, l'enjeu de l'organisation est numéro un. Pour prendre, et avant même les histoires de rémunération et autres, que ce soit côté patient comme côté soignant, pour prendre un exemple très concret, le tabac de la femme enceinte, c'est un sujet en plus qui n'est pas polémique. En France, on a le record du monde. On a 17% de femmes fumeuses en fin de grossesse, alors que dans certains pays européens, on est à moins de 5%. Donc, on a le record du monde de tabagisme en fin de grossesse. Pourtant, ça fait un consensus total, côté femme, comme côté professionnel de santé, comme côté institution. Il y a plein de moyens qui sont mis. Ça ne fonctionne pas. Et quand on regarde ce que donne l'enquête Périnat, les femmes enceintes ont 10 à 12 contacts avec le système de soins au cours de leur grossesse. Dans un cas sur cinq, personne ne leur a posé la question du tabac. Quand on leur a posé la question du tabac, dans un cas sur deux, on ne leur propose pas de solution. Et pourquoi ? Ce n'est pas des questions d'incompétence, de méconnaissance des uns et des autres, mais le médecin traitant ou la sage-femme va dire « oui, mais à qui je l'adresse ? Il faut 6 mois de rendez-vous pour un tabacologue. » Ou alors « est-ce que je suis légitime à poser la question ?» Ou de toute façon, elle ne voudra pas arrêter de fumer. Et la femme elle-même qui dit « C'est un sujet qui est stigmatisant. J'ose pas en parler à mes professionnels. Et on a expérimenté, pour vous dire, là, sur un territoire de la région, un programme tout simple de mise en relation des professionnels entre eux, mais tout simple, hein, qui coûte 3 francs 6 sous. Et on a, au cours de l'année d'expérimentation, on a diminué d'un quart le tabagisme des femmes enceintes. Tout simplement en demandant à chaque professionnel de poser la question et en proposant une solution organisationnelle qui passe par du système d'information, hein, c'est extrêmement important, mais sans aucun centime de rémunération supplémentaire ou pas. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Il y en a besoin si on veut pouvoir pérenniser, etc., etc. Mais tout ça pour dire que l'enjeu, ce n'est pas la femme, en l'occurrence, ou le patient non compliant qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Ce n'est pas le professionnel pas formé qui ne s'investit pas suffisamment. C'est comment on s'organise sur le territoire. Et c'est pour ça que les maisons de santé, ou aujourd'hui les CPTS aussi, ou les autres modes d'organisation, sont essentiels, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Là, j'ai pris un exemple concret, mais on pourrait en citer 1000. Donc, travaillons sur ces organisations, voyons comment leur donner les moyens de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, les CPTS, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui sont en train de se déployer partout, l'enjeu n'est pas le mode de rémunération des professionnels. L'enjeu, c'est comment on coordonne, comment on structure, quels sont les métiers, quelles sont les personnes, le temps humain consacré à ces organisations, à faire des diagnostics territoriaux, à mettre en place un système d'information, à construire des outils de diagnostic partagé, à construire des procédures aussi territoriales en fonction des acteurs qui peuvent être très différents, etc., etc. Et c'est tout ce temps humain qu'il faut surtout. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce virage qui me semble essentiel.
Et il y a deux sujets qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie dans nos débats. Juste très rapidement, deux sujets qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie dans nos débats. Le premier, c'est la prévention en santé mentale, parce qu'on ne sortira d'une vision stigmatisante sur la psychiatrie et psychiatrisante, simplement axée sur la psychiatrie, que si on parle aussi de prévention en matière de santé mentale et de bon état de santé mentale. C'est un défi collectif pour une population. On voit bien comme les indicateurs aujourd'hui en post-crise sont dégradés. C'est un enjeu de prévention majeur parce qu'il rejaillit aussi sur les paramètres physiques. Et le deuxième sujet, c'est la prise en compte des enjeux sociétaux. La lutte aujourd'hui, les violences intrafamiliales, le coût économique, c'est 2 milliards. Je ne parle pas du coût humain, sociaux, et de l'importance, effectivement, d'intervenir très tôt, et évidemment, sur ces processus, sur les enjeux également sociétaux. Il y a même si on a beaucoup progressé, et tu parlais, François, des 1000 jours, et enfin, on a décidé, la puissance publique a décidé de s'occuper de l'investissement social précoce sur la petite enfance, qui est un élément fondamental, sur ces sujets sociétaux aussi, qui sont aujourd'hui les sujets qu'on latéralise, parce que entre guillemets, c'est plus facile de parler de tabac, d'alcool, d'addiction que sur ces sujets un peu lourds. Donc, du coup, on les latéralise alors qu'en fait, ils sont fondamentaux et qu'il ne faut absolument pas que par facilité, on les oublie en se disant oh, finalement, on est sur nos bases, l'alimentation, le tabac, l'alcool. Je ne dis pas que c'est pas important, mais franchement, il n'y a pas que ça sur le champ de la prévention, loin s'en faut.
Pour aller dans ce sens-là… Juste un mot pour aller dans ce sens-là, comment est-ce qu'on peut entendre un conseil de réduire l'alimentation ou de manger moins sucré quand on se fait cogner dessus en rentrant à la maison, en sortant de la consultation? Donc, je suis absolument d'accord avec ça.
Je crois que le conseil est partagé. On a une dernière question de Enrar, si vous voulez prendre la parole et mettre votre caméra. Et on va se donner 5 minutes de plus puisque on avait commencé 5 minutes en retard. Alors, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous m'entendez? Et est-ce que vous pouvez vous présenter, parce qu'on ne vous connaît pas?
Oui, je suis un professeur de santé publique à la retraite et je suis rédacteur en chef de la revue Santé publique. Alors, j'avais moi j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit, hein, je suis d'accord. Il manquait, à mon avis, deux éléments qui vont dans le même sens que ce que vous dites. C'est la place des collectivités locales communales. Le bloc communal, on n'en a pas beaucoup parlé. Or, c'est un acteur qui a émergé dans les 20 dernières années avec beaucoup de contrats, avec une mobilisation à la fois des élus, des usagers, des professionnels. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il est très important que l'État donne plus de compétences au bloc communal. Je dis bloc communal parce que entre la commune de 500 habitants et la ville de 2 millions d'habitants, il y a toute une marge. Donc, parlons du bloc communal. Je crois que c'est très important. Deuxième chose qui est importante, c'est de faciliter l'appropriation par les agences régionales d'une part et par l'État d'autre part, de toutes les interventions locales qui souvent sont pleines de succès, mais qui sont absolument inconnues à la fois des ARS et du pouvoir central. Je crois que c'est très important. Voilà. C'était les deux observations que je voulais faire, ou les deux apports que je voulais faire.
Je pense que vous avez parfaitement raison en ce qui concerne en particulier. On ne travaille pas en France sur cette notion de success story et trop souvent, on ne montre pas les choses qui marchent. On parlait d'un plug tout à l'heure, c'est exactement le cas. Et je crois qu'il faut faire la promotion justement des actions qui sont des actions de qualité. Et en tant qu'élu local, je suis très sensible à ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est au niveau du bloc communal qu'on peut faire beaucoup de choses. Et surtout, il y a un repérage des populations fragiles ou des personnes fragiles, qui est beaucoup plus simple dans une petite commune à ce niveau-là que ne serait-ce que dans une grande ville comme Paris, quand on est élu.
Et beaucoup de maires font de la santé sans le savoir, parce que quand on améliore les logements, quand on améliore les transports publics, etc., ben, on contribue à la santé de la population. Et malheureusement, comme on est toujours dans le modèle biomédical dominant, les maires ignorent totalement, finalement, qu'ils interviennent dans le domaine de la santé.
Et je crois que c'est une des grandes règles qu'il faut garder de ce débat, si vous en êtes d'accord, c'est le fait que dans cette vision globale qui caractérise la santé au sens large du terme, ou dans une définition One Health, il va falloir qu'on valorise tout, c'est-à-dire non seulement, bien entendu, les moyens financiers mis à disposition, mais également les efforts que font chacun des acteurs et qui ne sont jamais pris en compte. Le temps, l'investissement, les moyens d'affichage, autre chose. Ce n'est pas forcément aux acteurs eux-mêmes de faire les propres campagnes, mais en tout cas, quand ils se mobilisent, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de valoriser cette mobilisation. Je vais être obligé d'arrêter les débats là. Je crois qu'on aurait pu continuer encore pendant une demi-heure ou une heure. Vraiment, merci à tous d'être présents. On se retrouve le 19 janvier prochain sur le thème de la démocratie sanitaire. Justement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, la démocratie sanitaire sera au cœur de notre prochain débat. Je vous invite tous non seulement à vous inscrire, mais également à faire la promotion de ces rencontres pour qu'on puisse avoir les débats les plus passionnants, comme ce soir et comme la fois dernière. Autour de ces questions essentielles qui ne devraient jamais être négligées par les candidats à la présidence de la République. Merci encore et très bonne soirée.
Au revoir, merci.
Merci beaucoup.
Côté des territoires, il y a autour de la table 4 think tanks qui ont travaillé sur 5 questions. Enfin 4 questions plutôt et qui donneront lieu donc à 5 réunions puisqu'on invitera également les représentants des candidats ou les candidats qui voudront se déplacer pour faire une restitution et discuter avec eux des différentes propositions qui seront faites par les 4 think tanks. Les 4 think tanks sont, je le rappelle, l'ISA, le CRAPS, les électrons et l'Observatoire de la régionalisation. Et ce soir, pour représenter le CRAPS, on a Didier Bazocchi, donc qui est ancien directeur général de la MMA. Pour représenter l'ISA, on a François Allat, qui est professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux. Pour représenter l'Observatoire de la régionalisation, on a Fabienne Mignot. Elle est responsable des relations institutionnelles d'un groupe mutualiste destiné aux professionnels de santé. Et pour représenter les électrons, on a Sophie Beaupère, qui est déléguée générale d'Unicancer, et Béatrice Noëlec, qui est responsable des relations institutionnelles et de la veille sociétale à la Fédération de l'hospitalisation privée. Voilà, alors la question que l'on traite ce soir, c'est la question de la prévention. Dire que c'est une bouteille à l'encre, que ça fait partie des serpents de mer et des dossiers mal partis, comme un acronyme bien connu, c'est quelque chose d'évident dans le domaine de la santé. On a un système de santé qui est extrêmement centré sur le, sur le soin et pas du tout sur la prévention. On s'aperçoit pourtant qu'à l'heure actuelle, si on avait fait plus d'efforts dans la prévention, et en particulier dans la pédagogie de la prévention, on serait peut-être un peu mieux en ce qui concerne toutes les stratégies à mettre en place autour de la crise sanitaire, en particulier la vaccination, que ça donnerait très certainement moins d'efforts à faire et aux politiques et aux systèmes de santé pour pouvoir s'adapter aux situations exceptionnelles. Voilà, donc autour de la prévention, chacun des think tanks a travaillé, et je vais passer tout de suite la parole à honneur aux dames. Donc je vais passer la parole à Fabienne Mignot, qui représente l'Observatoire de la régionalisation, pour qu'elle puisse nous parler justement de la prévention et de la façon dont l'Observatoire la conçoit.
Je vais remettre mon micro d'abord. Eh bien, écoutez, j'ai l'honneur de débuter, donc vous me pardonnerez mes petites hésitations. Et puis, de toute façon, je sais que tous les camarades qui ont participé aussi aux réflexions sont parmi nous, donc pourront ajouter un autre propos. L'Observatoire de la régionalisation, c'est un groupe de personnes qui a réfléchi ensemble en se disant, mais est-ce que l'échelon de la région n'est pas le bon échelon aussi pour aborder les questions de santé? Et du coup, il y avait notamment une audition qui était prévue avec la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MEX. Donc, on avait alimenté quelques-unes des réflexions avec Olivier Mariotte, Younes Telali et Vincent Daël, entre autres. Donc, lors de nos échanges sur le sujet de la prévention, on m'a dit de me présenter, mais en fait, Olivier Mariotte l'a fait. J'étais ergothérapeute il y a bien longtemps. Et j'ai été coordinatrice de santé. J'ai fait de la recherche dans le domaine du handicap entre le sanitaire et le médico-social. J'ai aidé des équipes à se réorganiser après les fusions d'établissements, et j'ai été sensibilisée au mal-être des soignants qui arrivaient après le mal-être des profs, après le mal-être des uns et des autres. Et je travaille depuis 4 ans pour une mutuelle de professionnels de santé en charge en particulier des questions de la prévention à mettre en place avec les acteurs institutionnels qui sont mes interlocuteurs sur la région du Grand Ouest. Donc voilà d'où je vous parle, et donc on met en place des actions de prévention régulièrement et on essaie de dénicher ce qui peut être aussi duplicable. Sur le contenu, puisque on va essayer de faire relativement court, sur le contenu de nos réflexions par rapport à cette question de la prévention à l'échelon régional. On sait qu'il existe un tas d'acteurs. Je vais mettre mes lunettes pour voir mes notes. Il existe des acteurs qui parviennent à prendre des initiatives qui fonctionnent, mais après, comment on les duplique? Comment aussi on fait connaître tout ça et on donne une cohérence et une égalité des chances sur tout un territoire sur ces questions de la prévention? On sait aussi que il y a un tas de complexités de différents acteurs sur le domaine de la prévention qui mettent beaucoup de flou pour tout cela, et la prévention qui est peu ou pas suffisamment financée et pilotée, et qui surtout, et c'était là où on était tous d'accord, sur le fait que la prévention ne peut pas et ne doit pas reposer que sur les financements propres au régime de sécurité sociale. En disant, en fait, un de nos propos principaux a été de dire, on sait maintenant et on l'a prouvé depuis longtemps, que ce qui impacte sur les populations, ce sont les déterminants sociaux de santé qui ont été quand même décrits par l'OMS depuis X temps. Et en fait, à l'échelle des régions, on a à la fois les observatoires régionaux de santé, on a les IREPS, enfin, on a un tas d'acteurs de l'observation des situations de santé. Et puis, on a des acteurs, alors là, pour le coup, du côté plutôt politique et des décideurs, au niveau de la région, on avait évoqué ensemble le fait que les prérogatives de la région, enfin, au sens conseil régional, comme les élections de l'année dernière, eh bien, a comme mission des missions dans les lycées, des missions au niveau de l'emploi, au niveau de la formation, qui sont tous des vecteurs qui impactent sur la santé des publics et qui peuvent s'adapter à des indicateurs plus locaux. Donc, voilà, un de nos constats, c'est que le financement de la prévention ne doit pas reposer sur la sécurité sociale ou ne peut pas reposer sur la sécurité sociale dont on ne parle que du déficit plutôt que de en parler en termes de ressources. Et du coup, l'idée, c'était de mobiliser les acteurs. Alors, on a évoqué plusieurs niveaux de possibilités d'action, en tout cas autour des ARS, soit en enrichissant au niveau aussi des ARS, mais de toute façon en faisant des liens avec les conseils régionaux à ces échelles-là pour vraiment agir sur les déterminants sociaux de santé. En fait, pour étayer peut-être d'un exemple, il existe un programme européen qui s'appelle le programme Unplugged. Le programme Unplugged est un programme de sensibilisation des élèves, plutôt en classe de 5e, aux consommations de substances psychoactives. Ce programme Unplugged, qui bénéficie de financements européens, peut se mettre en œuvre dans les différents collèges de France. Et en fait, il y a des unités qui sont rattachées à l'unité interministérielle des addictions qui donc vont former à la fois des enseignants et mobiliser des acteurs du monde des addictions pour faire des séances d'une heure 10 fois dans une année pour les élèves de 5e. Donc 10 fois une heure pendant une année pour des élèves. Et pour l'instant, ça ne se fait que sur la base du volontariat au niveau des enseignants. Enfin, c'est animé par à la fois un enseignant et par un acteur du monde des addictions qui sont formés ensemble et donc délivrent à ses élèves sur 10 mois ce programme-là. Eh bien, vous savez tous ce que c'est qu'une courbe exponentielle. Donc, pour les consommations de substances psychoactives, alcool, tabac, cannabis, c'est les trois substances qui ont été étudiées. Après la classe de 5e, ça fait une courbe exponentielle sur les consommations par les enfants. Et en fait, pour les enfants qui ont bénéficié du programme Unplugged, eh bien en fait, cette courbe n'est pas une courbe, elle reste plate, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les consommations. Donc ça a été prouvé par des études faites pilotées par Santé publique France, et c'était notamment sur un dispositif qui a été mis en place à Tours. Et alors voilà, la question après, c'est de se dire, si on veut vraiment faire de la prévention, est-ce que au niveau de programmes, comme ça peut être pour les présidentielles, est-ce qu'un système qui est aussi décloisonné que celui-là, ne faut-il pas mettre plus d'appui sur est-ce que tous les élèves de 5e ne devraient pas bénéficier dans notre pays d'un tel programme qui finalement pour chacun d'eux ne mobilise que 10 heures d'enseignement répartis sur une année en classe de collège. Donc, et l'idée, c'est de se dire comment après on va piloter ce type de programme, mais qui est juste un exemple de prévention, comment ça va être financé. Et surtout, ce ne sont pas les acteurs du monde de la santé qui participent. Donc, j'espère que je suis relativement claire. Je vais m'arrêter là pour cet exemple. En tout cas, déterminants sociaux de santé, pilotage au niveau régional de la prévention en santé. C'est vraiment nos conclusions principales et partagées.
Merci beaucoup, Fabienne, pour cette position du think tank Observatoire de la régionalisation. Je passe tout de suite la parole à Sophie et à Béatrice. Si vous pouvez vous présenter, peut-être un peu moins succinctement que ce que j'ai fait tout à l'heure, n'hésitez pas à le faire. Et donc, vous prenez la parole pour les électrons.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on va faire la présentation à deux voix. Donc je vais démarrer. Sophie Beaupère, je suis déléguée générale d'UniCancer, c'est-à-dire la fédération des 18 centres de lutte contre le cancer. Évidemment, on travaille beaucoup sur les sujets de prévention primaire, secondaire, tertiaire de l'ensemble des cancers, mais bien sûr, au nom du groupe du think tank Electron, on a travaillé sur largement la réflexion sur la prévention. Et on a dégagé cinq orientations. Donc, je vais en présenter deux. Et puis, après, Béatrice présentera les suivantes. Donc, ce qui ressort de notre réflexion, c'est que bien sûr, il faut faire de la prévention une ligne directrice horizontale qui traite de l'ensemble des sujets sanitaires et sociaux et qui concerne l'ensemble des acteurs du monde de la santé. C'est évident, mais ça doit quand même être rappelé parce que pour faire le constat, on peut partir d'ailleurs du récent rapport de la Cour des comptes hein, sur la prévention qui est sorti à la fin de l'année et qui rappelait que l'effort financier qui était fait par la France, de mémoire 0,63% du PIB, il était conforme à celui fait par les autres pays européens, mais qu'il y avait néanmoins plusieurs problématiques qu'on pouvait soulever. Il y avait un manque d'articulation finalement entre les différents programmes de prévention, puisqu'il y a depuis 2018 le plan national santé publique, mais en parallèle, il y a différents plans thématiques. Et on peut prendre l'exemple par exemple de la stratégie décennale de cancéro, mais que ces différents programmes ne sont pas forcément complètement articulés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui était soulignée et qui nous paraissait pertinente, c'était aussi l'insuffisance d'objectifs pluriannuels. Évaluer qui permettent vraiment d'analyser l'efficacité des programmes de prévention pour faire court. Donc, ce qui ressort un peu de l'expérience des acteurs de terrain sur ces sujets, c'est que déjà, et ça rejoint peut-être ce qui a été évoqué précédemment, il nous semble qu'il faille davantage faire confiance aux acteurs de terrain, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expérience en matière de prévention. Décloisonnés d'ailleurs hein, entre établissements de santé, l'éducation nationale, les professionnels libéraux et que souvent ces expériences elles sont réalisées je dirais avec des bricolages de financement et qu'elles ne sont pas toujours connues et qu'elles mériteraient d'être reproductibles au niveau national. Je prendrai quelques exemples de la cancéro que je connais. Il y a un bus du centre de lutte contre le cancer de Bordeaux qui va au contact de l'ensemble de la population, notamment les quartiers les plus défavorisés ou en campagne, pour faire la promotion des dépistages, donner de l'information. Et ça, c'est financé par exemple par le conseil régional. Et donc, il y a aussi par exemple un programme qui est très intéressant, qui est porté par Gustave Roussy, qui s'appelle Interception, pour cibler les personnes qui sont à plus haut risque de cancer en lien avec les médecins généralistes pour pouvoir, Gustave aussi a développé un petit programme qui permet aux médecins généralistes d'identifier quelles sont les personnes à plus haut risque et de proposer un programme de prévention, d'information, de dépistage. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions qui sont menées par l'ensemble des professionnels, sans pour autant que ces actions soient... puissent être diffusées faute de dispositifs nationaux qui permettent de les faire connaître et de les diffuser. Donc ça, c'était le premier point, c'est comment on améliore ce pilotage. Et un des sujets qui est fondamental, c'est bien sûr les incitatifs financiers. Parce que comment aujourd'hui, ça nous semble encore insuffisant, les mécanismes financiers qui incitent notamment les professionnels qui sont tous débordés, ça on le sait, par leur activité de soins, à pouvoir développer des programmes de prévention. Et en cela, des forfaits globaux type article 51, même si c'est des usines à gaz, méritent quand même d'être développés pour pouvoir porter des programmes qui permettent de mobiliser l'ensemble des acteurs. Encore faut-il que ces programmes soient évalués avec des objectifs pluriannuels qui soient et des indicateurs extrêmement précis. Et l'autre point qui nous paraissait important sur justement en faire une ligne directrice horizontale qui permet de mobiliser tous les acteurs du système de santé, c'est l'utilisation des données, évidemment, et le pilotage par la donnée, notamment pour les actions de prévention, puisque c'est d'ailleurs souligné par le rapport de la Cour des comptes. Il y a aujourd'hui une difficulté, notamment pour les ARS, à avoir un pilotage par la donnée de ces sujets de prévention, de pouvoir recueillir des indicateurs qui permettent une évaluation pluriannuelle. Donc évidemment, pouvoir avoir recours aux outils IA, data et aux applications pour pouvoir travailler sur le sujet. C'est là encore déployé aujourd'hui par les acteurs de terrain. Je pense à la prévention tertiaire, par exemple, où il y a beaucoup d'applications qui permettent d'évaluer, par exemple en cancéro, l'impact de l'activité physique sur l'état de santé des patients Mais cela nécessite encore de pouvoir être soutenu par les pouvoirs publics. Donc ça, c'était une des premières orientations. La deuxième orientation, elle concernait le rôle des complémentaires dans les actions de prévention. Parce que il est clair que les complémentaires aujourd'hui sont mobilisés. Il y a plein d'actions de prévention qui sont soutenues par les complémentaires en matière de prévention, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire d'ailleurs, mais cela n'est pas toujours suffisamment connu et mis en valeur, nous semble-t-il, et bien sûr cela nous paraît fondamental que le rôle des complémentaires soit renforcé en ce domaine, parce que tout simplement la sécurité sociale ne peut sans doute pas financer l'ensemble des actions conduites, et donc cela nous paraît essentiel que dans le cadre de mécanismes de financement justement qui soient travaillés, eh bien le rôle des complémentaires puisse être prévu, tout simplement. Mais je pense que cela va prêter à discussion dans la suite des échanges. J'ai fait très court. Béatrice, est-ce que tu souhaites présenter la suite? Parce que je sais qu'on n'a que 5 à 7 minutes, si je me souviens bien.
Oui,
Est-ce que tu souhaites présenter la suite de nos propositions?
Tout à fait. Et donc, Béatrice Noëlec, je suis la directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale à la Fédération de l'hospitalisation privée. Désolée pour cette inactivité de la caméra, ce n'est pas une coquetterie de ma part, c'est que voilà, c'est une première, il faut bien que ça arrive, ça ne marche pas. Très rapidement, en complément effectivement de ce que vient de dire Sophie, deux, trois autres propositions qui ont irrigué notre réflexion au sein des électrons. La première, c'est de dire, alors c'est triste à dire, mais malgré tout, la pandémie, ce que nous vivons depuis 2 ans, peut être quand même, il faut pas laisser passer l'opportunité en fait qu'offre cette pandémie pour parvenir à irriguer vraiment le système de santé avec les enjeux de santé publique et de prévention. On voit quand même que la pandémie a permis à certains acteurs qui se regardaient en chien de faïence de se connaître, de se parler et de tisser des coopérations. Donc il faut, je dirais, pérenniser, sanctuariser certains acquis de la crise et peut-être un des principaux acquis qui sans le dire, c'est évidemment cette notion de One Health, hein, qui est quand même un concept qui existe depuis 20 ans, ce n'est pas quelque chose qui a émergé il y a 6 mois. Ce concept a ressurgi à la faveur de la pandémie, cette vision évidemment sur laquelle on est tous d'accord, vraiment globale et holistique de la santé. Et pourtant, Cham à la rentrée était dédié à One Health et on avait des interlocuteurs, dont je me souviens d'un président de syndicat médical qui disait « Moi, j'en ai jamais entendu parler, c'est quelque chose de totalement en apesanteur par rapport à ce que je vis. » Et donc, cette approche de santé en surplomb et transversale, c'est vraiment loin d'être une réalité aujourd'hui. La pandémie a montré combien, au niveau de la gouvernance de l'État et en général, il y a des cloisonnements énormes, un gros défaut notamment d'interministérialité, hein, la santé, l'industrie, l'agriculture, la défense, l'éducation, le logement, tout ça effectivement devrait être complètement, ce sont des intérêts de prévention et de santé publique étroitement imbriqués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, comme le disait Sophie, hein, ce qui est corrélé, une défaillance chronique dans le partage de données fiables, homogènes. Vous avez vu le récent rapport de l'IGAS qui vient de sortir, qui est très intéressant sur ces enjeux de la statistique des données et ce constat où il déplore effectivement l'émiettement et l'absence de partage. Donc là, on a effectivement en matière de prévention un champ très très important. Le deuxième point effectivement, c'est aussi de faire en sorte que dans la prévention également la démocratie sanitaire soit une réalité. Là aussi, hein, prenons la pandémie, il y a eu quand même une latéralisation relative de la société civile. On reste encore très imprégnée de démarches en termes de prévention, très descendantes, normatives, voire punitives parfois. On porte aux électrons la conviction que l'acceptation de certains changements, voire contraintes, hein, on a aussi des contraintes, passe vraiment par une analyse fine des signaux faibles, une mesure fine des degrés d'acceptation sociale de telle ou telle mesure, comprendre les ressorts profonds de tel ou tel comportement. Et ça, ça ne se bâtira pas de manière descendante sans l'exercice d'une vraie démocratie sanitaire. Donc pour la prévention, encore moins que pour le reste, ce n'est pas juste une question de sachant qui fixe les règles du jeu, c'est vraiment un enjeu d'imprégnation générale de l'ensemble de la société, d'embarquement de l'ensemble des acteurs de la société, aidé évidemment par les enjeux du numérique. Et le monde espace santé doit être aussi un vecteur. Et puis en fait, enfin, un dernier point que Sophie complétera et qu'on voulait signaler dans la lignée de ce qu'a dit juste avant Madame Mignot, c'est vrai que les collectivités territoriales, on voit bien les régions, elles ont en charge le transport, le logement, autant de sujets qui comportent clairement des enjeux santé, ça corrèle d'ailleurs avec One Health. Et donc là, à l'évidence, il y a matière à notre sens, à une montée en puissance de l'action des collectivités territoriales sur le sujet, tout en trouvant un équilibre entre cette latitude d'action accrue sur les territoires, mais en même temps des priorités impulsées à l'échelle d'une nation, en nombre réduit, mais qui embarquent tout le monde. Aujourd'hui, en réalité, on a 500 sujets de prévention, résultat, on n'en a aucun. Il y a un manque criant de visibilité et de cohérence. On ne renvoie pas aux citoyens aujourd'hui l'image de la visibilité d'une cohérence de la prévention. Résultat, les gens ont l'impression qu'on ne fait rien. Il faut que ce soit un sujet majeur porté non seulement par le politique, mais par tous. Il faut remédier effectivement au cloisonnement et aux émiettements. Et je donnerai un exemple, il faut embarquer tout le monde. Les établissements de santé privés, mais tous les établissements de santé publics, privés, associatifs et privés, ce sont des établissements de santé. Nous, on reçoit 9 millions de personnes chaque année, plus leurs proches. On a évidemment un vivier énorme pour faire de la prévention primaire. Il y a des enjeux de financement, etc. Mais on voit bien, il ne faut pas passer à côté de tout ça et il faut souhaiter que, voilà, que ce soit qu'on tire les leçons de ce qu'on a vécu depuis 2 ans pour y aller.
Oui, tout à fait. Juste effectivement pour dire que ça nous paraît fondamental de mettre on a terminé, en valeur le rôle des collectivités locales, que ce soit bien sûr, notamment les conseils régionaux, mais également les municipalités et départements, puisqu'il y a toute la palette de, notamment par exemple, je pense aux risques environnementaux, également au dépistage. Et aujourd'hui, les professionnels sont vraiment très, très soutenus dans leurs actions par les collectivités territoriales. Je pense que c'est important de le dire.
Merci Sylvie, merci Sophie pour cette précision. Merci Béatrice. Je passe tout de suite la parole à François Alla pour Lisa.
Bonjour, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Bonjour François.
Bonsoir, oui, c'est triste que je ne te vois pas, Béatrice.
Ben oui, écoute, non, je vais essayer d'y remédier d'ici la fin.
D'accord. Donc, François Alla, donc, Université de Bordeaux, et par ailleurs, chef du service de prévention du CHU de Bordeaux. Mais je ne vais pas trop vous parler de prévention clinique, qui est mon métier, pour vous parler d'un autre sujet qui me semble majeur. Donc avant d'aborder les propositions, permettez-moi de donner quelques éléments de constat qui me semblent extrêmement importants si on veut pouvoir aller plus loin et passer des vœux pieux autour de la prévention à des résultats concrets. Et les propositions, vous verrez, convergent beaucoup avec ce qu'ont dit les collègues. Donc la synthèse sera aisée, je pense que sur beaucoup d'aspects, démocratie sanitaire, territorialisation, données probantes, Unplug a été cité, etc. Enfin, je pense que sur un certain nombre de lignes fortes, on se rejoint beaucoup. Mais avant de donner quelques lignes de propositions, sur le constat, ça a été cité tout à l'heure, le rapport de novembre de la Cour des comptes, si je cite une des phrases qui est mise en exergue, avec un bilan de la prévention médiocre en France, malgré des moyens comparables aux pays voisins. Et ce rapport est intéressant aussi pour ça, parce que souvent, quand on parle de prévention, c'est pour dire on n'a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour la prévention, et c'est pour ça qu'en France, on est plus mauvais qu'ailleurs. Effectivement, on pourra discuter des moyens, et notamment pour certaines structures de prévention, mais je pense que ce n'est pas une question de moyens, ou pas une question de moyens d'abord, mais une question de logiciels, et de mauvais logiciels pour la prévention. Parce qu'en effet, quand on analyse la plupart des politiques et des actions de prévention, quel qu'en soit le porteur, sont fondées sur un postulat qui est quand même très fort et très ancré en France et assez spécifiquement en France, que le comportement de santé est un choix individuel et donc rationnel, lié à un manque d'informations, et donc il faut transmettre les bonnes informations pour que les personnes adoptent le bon comportement. Et si ils se sont réticents, à la limite, on peut un peu leur taper dessus ou les emmerder, le cas échéant, pour prendre un sujet d'actualité. Et ce postulat ou ce principe est bien sûr faux et archi-faux. S'il suffisait d'être informé pour adopter le bon comportement, ça se saurait, bien sûr. Et s'il suffisait d'être informé pour adopter le bon comportement, pour prendre qu'un exemple, il n'y aurait aucun médecin fumeur, ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et donc, si on veut progresser en prévention, au-delà des mesures très concrètes, j'en voterai quelques-unes si le temps le permet, c'est déjà de changer de paradigme. Et ce que je vous dis, ce n'est pas un scoop, hein, c'est 40 ans de recherche à l'international qui nous ont appris que le comportement, c'est d'abord le fruit d'un environnement pris au sens large. Hein, ce n'est pas que l'environnement physique, mais c'est aussi l'environnement social, l'environnement organisationnel. Et d'ailleurs, à l'étranger, on parle de moins en moins de comportement, mais de plus en plus de réaction comportementale. Sous-entendu que le comportement est lui-même la conséquence. Tout à l'heure, on parlait des déterminants sociaux de la santé, mais c'est extrêmement important. Et voilà, pour prendre un exemple très simple dans ma ville de Bordeaux, on est une des villes en France, une des trois villes en France où il y a le plus de trajets emploi domicile en vélo. Plus de 10% de la population bordelaise va au travail en vélo. Ce n'est pas parce qu'il y a une campagne d'information pour dire « faites de l'activité physique, c'est bon pour votre santé ». C'est parce que la géographie s'y prête, c'est plat, on n'est pas à Grenoble, et parce que le climat éventuellement s'y prête, venez dans le sud-ouest en vacances, et parce que l'aménagement urbain, pistes cyclables, garages spécifiques, etc., ont été mis en place. J'ai pris cet exemple anecdotique, mais je pourrais en prendre plein. C'est d'abord l'environnement qui fait le comportement. Ça paraît évident, mais ce n'est pas encore traduit dans nos actions et dans nos politiques. Et le fait de ne pas le prendre en compte, c'est aussi un des facteurs principaux qui explique le point noir vraiment de la situation française en termes de santé, qui sont les inégalités sociales de santé. Tout le monde connaît les différences de mortalité, mais aussi de qualité de vie, de morbidité entre classes sociales. Et ça s'explique aussi par cette pression environnementale, parce que qui n'a pas le choix de son environnement, que ce soit le logement, que ce soit l'environnement urbain, que ce soit l'environnement professionnel. Bien sûr, c'est lié à des facteurs économiques, socioculturels. Pour donner un exemple très concret, parce que des fois, c'est avec les exemples qu'on arrive à illustrer, ça a été démontré en France que l'état nutritionnel, que ce soit en termes de surpoids, d'obésité, d'hypertension artérielle, de diabète, que l'état nutritionnel était lié aussi au type d'enseigne que l'on fréquentait, et notamment que les populations qui fréquentent le hard discount et qui bénéficient entre guillemets d'une offre alimentaire à bas coût, mais de très piètre qualité, sont ceux qui malheureusement se retrouvent dans les situations les plus difficiles sur le plan nutritionnel. Et donc c'est un facteur d'inégalité, et c'est d'ailleurs le principal facteur d'inégalité sociale de santé quand on regarde les modèles tels qu'ils ont été construits à l'étranger. Et donc, à considérer ainsi que le comportement, c'est un choix individuel et qu'il suffirait d'informer la personne rationnelle pour qu'elle change de comportement, on surresponsabilise les personnes, voire on les culpabilise. Donc, ça rajoute de la stigmatisation à la stigmatisation. Hein, voilà l'exemple de l'obésité de l'enfant et de ce qui peut être fait comme effet délétère de certaines interventions. Donc, on surresponsabilise les personnes et on déresponsabilise les vrais responsables, qui sont les décideurs, finalement, quel que soit le niveau de décision. Pour vous donner un exemple qui m'a fait bondir tout récemment, c'est les 1000 jours. Vous connaissez les 1000 jours, hein, c'est un enjeu extrêmement important, qui sont la grossesse et les 2 ans qui suivent. C'est un âge ou une période où beaucoup, beaucoup se joue en termes de santé. Et donc, dans le cadre des 1000 jours, un très beau site Internet public a été mis en place. Et dans ce site, qui est compris sur le plan esthétique, scientifique, etc., mais dans ce site, à un endroit, on va expliquer aux jeunes parents que dans les produits bébés, les produits d'hygiène pour bébés, de bien regarder les étiquettes, parce qu'il y a des produits d'hygiène pour bébés qui sont vendus en France, qui sont dangereux pour les bébés, perturbateurs endocriniens, etc. Mais on marche sur la tête.
si des produits sont dangereux, il faut les interdire, ou alors interdire de mettre une étiquette shampoing pour bébé. Et ce n'est pas demander aux parents d'aller lire des étiquettes qui sont d'ailleurs illisibles, hein, sur les produits cosmétiques, c'est encore pire que pour l'alimentaire. C'est un non-sens absolu. Mais bien sûr, enfin, il ne faut pas être naïf. Hein, le décideur s'achète une bonne conscience. J'ai informé, les gens font leur choix, mais ce n'est pas que de l'incompétence. Bien sûr, derrière, il y a le poids extrêmement fort. Et je pense que c'est important d'expliciter, parce qu'en France, c'est assez tabou, on n'ose pas trop en parler, alors qu'à l'étranger, ça rentre dans les modèles. C'est ce qu'on appelle les déterminants sociaux, les déterminants économiques de la santé ou commerciaux de la santé. Et le poids des lobbies économiques extrêmement fort aujourd'hui sur tous ces sujets. Enfin, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec les questions du Nutri-Score et autres. On a en France, en tout cas, un poids extrêmement fort et qui font qu'on fait reposer artificiellement sur des personnes des sujets de prévention alors qu'elles n'ont pas la main. Et des exemples, on pourrait les retrouver tous les jours. Voilà, dans ma région, par exemple, où le sujet des pesticides est un sujet extrêmement fort. Comment on règle la question des pesticides et de l'exposition aux enfants? On leur dit fermer les fenêtres les jours d'épandage. Mais on pourrait dire aussi le boire avec consommer avec modération. En milieu de travail, évitez le stress professionnel, apprenez à gérer votre stress plutôt que réfléchir aux organisations de travail, etc. etc. On pourrait multiplier les exemples à l'envi. Mais j'insiste et j'illustre parce que même si ce constat commence à être partagé, dans la stratégie nationale de santé, on parlait des déterminants sociaux de santé. Concrètement, aujourd'hui, dans les actions, dans les leviers, on est encore sur cette vision individuelle de la prévention et on n'a pas pris en compte concrètement ces éléments-là. Alors, ceci étant dit, et je vais essayer d'aller vite parce que je sais qu'on n'a que 5 à 7 minutes avant d'ouvrir la discussion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire agir sur ces déterminants sociaux? Enfin, là, si je reprends ce qu'avait écrit Ottawa, de promotion de la santé, 86, c'est pas récent, je cite juste une ligne du préambule. La promotion de la santé va bien au-delà des soins. Elle inscrit la santé à l'ordre du jour des responsables politiques de divers secteurs en les éclairant sur les conséquences que leurs décisions peuvent avoir sur la santé. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé. Hein. Mais est-ce qu'en France, on peut arriver à le mettre en œuvre? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour le mettre en œuvre? En disant ça, moi qui travaille en pratique clinique préventive, je ne dis pas qu'il ne faut pas les autres actions. Mais les autres actions, finalement, viennent en complémentarité, voire en rattrapage. Par exemple, j'ai parlé de l'activité physique et de l'obésité. Ce n'est pas pour ça que le système de soins derrière ne doit pas prendre en charge, repérer, dépister des personnes qui sont en surpoids, en obésité, en diabète, hypertendues. Mais c'est du rattrapage. L'enjeu principal, c'est d'éviter effectivement de se retrouver dans cette situation et donc d'arriver à articuler d'abord la santé dans toutes les politiques, les politiques publiques saines, de mobiliser effectivement les leviers éducatifs. Je recite ce qui a été cité tout à l'heure, l'exemple d'Unplug chez les plus jeunes en milieu scolaire, de mobiliser aussi les structures publiques de prévention qui sont extrêmement importantes pour le repérage, le dépistage, la prise en charge, l'accompagnement, que ce soit la santé scolaire, les PMI ou autres. Donc, quand je parlais de manque de moyens en France, je parlais de façon globale, on dépense plus de 15 milliards d'euros par an pour la prévention. Mais quand on est plus spécifiquement dans certains secteurs, et je parlais de la prévention organisée, là, effectivement, on se retrouve devant des difficultés majeures. Et enfin, effectivement, la mobilisation du système de soins pour éviter de rajouter de l'inégalité à l'inégalité, parce que si on fait toute la chaîne, je reprends l'exemple de l'hypertension artérielle, effectivement, de par les facteurs environnementaux, il y a des grandes inégalités sociales de risque d'être hypertendu, mais ensuite, le système de soins, au lieu de lisser ces inégalités, les aggrave parce qu'il y a moins de dépistage. Quand il y a un dépistage, il y a moins de prise en charge, il y a moins de suivi, etc. etc., etc. Donc, c'est toute une chaîne qu'il faut construire. Et donc, concrètement, en quelques mots-clés, si on veut construire cette chaîne, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est là que ça rejoint beaucoup. Donc, je suis désolé de ce très, très long préambule avant d'en venir au fait, mais ça rejoint quand même beaucoup ce qu'ont dit les collègues. Mais je pense que c'est important de le remettre dans une stratégie globale. C'est d'abord, effectivement, d'avoir une vision globale des sujets de santé. Et comme ça a été souligné, la prévention, ce n'est pas la prévention du cancer, la prévention des maladies rénales, la prévention du cardiovasculaire. On est sur des sujets globaux et qu'aujourd'hui, c'est complètement segmenté avec plus de 80 plans de santé publique qui s'entrecroisent dans tous les sens. Donc, il y a besoin d'avoir une vision globale et qui prenne en compte la globalité des questions de santé. Et la crise Covid a été un très bon sujet pour montrer qu'on a du mal à avoir ça. Par exemple, chez les enfants en 2020-2021, on a pris une posture infectiologique, mais on n'a pas regardé la globalité et les risques psychosociaux, fermeture d'école, etc. etc. Heureusement, bon, on a évolué depuis. Donc, une vision globale. Deuxièmement, un vrai pilotage, que ce soit au niveau national, régional, local. Aujourd'hui, c'est incompréhensible, que ce soit en termes de pilotage, en termes d'acteurs, en termes même de niveaux territoriaux, de la façon dont sont construits les différents territoires de santé. Troisièmement, ça a été souligné aussi, et par ailleurs, je suis président de la CRSA, donc je ne peux pas ne pas le dire, et surtout que cette année, on va célébrer les 20 ans de la loi de 2002, un pilotage démocratique, parce qu'on a mis de la démocratie en santé dans le système de soins, mais finalement, quand on regarde ce qui s'est passé en 20 ans, plus on en a mis dans le soin, plus on en a enlevé dans la prévention, plus on a enlevé d'autonomie, plus on a, que ce soit à l'échelle individuelle d'ailleurs ou à l'échelle collective. Alors que sur des sujets, comme j'ai abordé, sur les consommations alimentaires, les modes de vie, les consommations de substances psychoactives, si vraiment il y a des sujets où on ne peut pas faire sans les personnes, sans les groupes, sans les communautés, c'est vraiment ces sujets-là. Donc, réfléchir à la place de la prévention démocratie en santé ou la place de la démocratie en santé en prévention, ce n'est pas un sujet annexe. Ça me semble central. C'est une question de principe, mais aussi d'efficacité. Quatrièmement, définir des objectifs clairs à chacun des acteurs. Par exemple, on a demandé aux acteurs du système de soins, aux établissements hospitaliers comme le mien, de s'investir en prévention. Mais si on veut qu'ils s'investissent, il faudrait que ça soit pris en compte dans la certification, par exemple. Ça devrait être pris en compte dans le contrat d'objectifs et de moyens avec l'ARS, etc., etc., si on veut vraiment opérationnaliser. C'est très pragmatique, ce que je dis, je suis désolé. Une démarche evidence-based, je reprends l'exemple d'Unplug, parce qu'effectivement, malheureusement, parce que ça se compte sur les doigts d'une main. Des programmes qui ont démontré leur efficacité en termes de changement de comportement, en termes de santé, malheureusement, il y en a très, très peu. Et que ce soit en termes de décision politique ou en termes de choix stratégiques de programmes, de financement, on a besoin d'être un peu plus evidence-based. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, non seulement on met en place des programmes inefficaces, je reprends l'exemple addiction chez les jeunes, donc d'âge scolaire avec Unplug. Aujourd'hui, ce que montrent les revues, c'est que 2/3 des programmes sont inefficaces, donc c'est une dépense de moyens, et qu'on a un certain nombre de programmes qui sont en plus délétères. CF, l'évaluation qui a fait la 1000DK il y a 4 ans sur 4 programmes nationaux français, dont Unplug, autour prévention alcool, tabac, drogue chez les jeunes d'âge scolaire. C'était 4 gros programmes, on n'était pas sur des petits programmes, on était programmes plus régionaux, etc. Sur les 4 programmes qui ont été évalués, bon, je vais raccourcir, 2 ont montré qu'ils étaient efficaces, moins de consommation d'alcool, de drogue et ou de cannabis chez les jeunes, et 2 étaient délétères. De bénéficier des programmes faisait augmenter les consommations. Donc, ce n'est pas négligeable de parler d'évidence-based, on est très, très loin en prévention. On n'est malheureusement pas comme dans le système de soins, avec des procédures très nettes, d'autorisation de mise sur le marché, etc. Chacun peut bricoler ce qu'il veut de son côté, donc c'est bien, c'est de la créativité, mais ça participe à l'efficacité globale du système. Et je terminerai là, puisque j'ai bien eu le petit message. Pour tout ça, on a besoin d'avoir derrière une infrastructure. Quand je dis infrastructure, c'est de la recherche. Si on veut des données probantes, il faut les développer. Un système d'information, ça a été cité tout à l'heure, c'est pour ça, ça rejoint quand même pas mal, de l'évaluation, etc., etc. Et au service de la prévention, on a besoin de structurer toute cette expertise qui, aujourd'hui, malheureusement, a du mal. Il y a des structures comme les IREPS en région, mais qui sont financées au lance-pierre, avec des statuts qui sont complexes. Donc, c'est vraiment, on a vraiment besoin de réfléchir aussi à tous les supports qu'il faut avoir pour développer la prévention. Voilà, j'ai essayé d'aller vite, mais je pense que la discussion permettra peut-être de prolonger si besoin. Et pour terminer quand même sur un mot, on parle de la crise hospitalière, de la charge hospitalière même actuellement dans le cadre de la crise Covid. Pour rappel, 50% des hospitalisations sont liées à des facteurs évitables par la prévention aujourd'hui en France, hors Covid. Donc, il y a quand même une marge de manœuvre extrêmement importante. Merci.
Merci beaucoup, François. Non, c'est très important de replacer un contexte global comme vous l'avez fait. Didier Bazouki, est-ce que tu veux prendre la parole? Que pense le CRAPS de la question de la prévention et quelles sont les préconisations que vous en faites?
Oui, merci. Donc, Didier Bazouki, vice-président de CRAPS. Je vais surtout intervenir d'ailleurs avec des réflexions personnelles, mais qui rejoignent très clairement la ligne qui est celle du CRAPS, qui est de donner un rôle important aux acteurs de terrain, et ça a été dit d'ailleurs, et je rejoins totalement ce qui a été dit, aux acteurs de terrain Moi, je voudrais faire une première remarque parce que je suis le moins expert de la table ronde sur ces questions. Et donc, je me suis surtout intéressé à des questions de gouvernance de cette prévention. Et donc, je vais vous livrer quelques réflexions pour partage et discussion. Premièrement, j'ai commencé par relire l'article 114-111 du Code de la santé publique parce qu'il date de 2002, il a été complété en 2004, plus récemment encore d'ailleurs. Et au fond, il y a tout là-dedans. On peut juste s'étonner que ce ne soit pas appliqué, quoi. Alors qu'on y met 15 milliards d'euros. C'est assez troublant quand on regarde ça. Et notamment, ce code de la santé publique, il dit clairement, quasiment en préambule, la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Très bien. Et puis ensuite, il décline tous les axes dont vous avez certains cité différentes parties. Et je trouve que, près de 20 ans après la loi de 2002, qu'on ait ce constat est assez troublant et il faut se demander ce qui se passe en termes de gouvernance. Alors, je crois que ça, c'est vraiment une des questions par laquelle il faut rentrer. Alors, moi, quand on parle de prévention, je suis toujours un peu gêné parce que, moi qui étais assureur, pour moi, la prévention est un outil ou un ensemble d'outils au service d'une politique. Que ce soit une politique de santé publique, que ce soit une politique de gestion du risque, en réalité, et vous l'avez d'ailleurs d'une certaine manière dit les uns et les autres. Je crois que c'est Sophie qui disait il y a une multiplicité d'objectifs de santé publique, il y en a 500, ou c'est Béatrice, je ne sais plus. Très clairement, qu'est-ce qu'on veut en matière d'objectifs de stratégie de santé publique, d'objectifs de santé publique, ou d'objectifs, et j'y viendrai, de gestion du risque. Parce que cette prévention, ces techniques de prévention, ces stratégies de prévention, si elles ne sont pas au service d'objectifs clairs, on voit bien que ça se disperse et qu'on consomme énormément d'argent avec des résultats finalement que vous avez tous et toutes décrits comme finalement relativement décevants. Pour ça, j'aimerais prendre quelques exemples. Alors, je vais prendre un exemple dans le domaine de sujet de santé publique qui m'avait frappé il y a quelques années. C'est sur le sujet de l'obésité et l'excédent de poids. Monique Romont, qui était la chef de service de nutrition au CHU de Lille, avait conduit avec l'ARS des Hauts-de-France une opération très intéressante sur les fonds d'intervention régionaux qui consistait en s'appuyant sur les associations de quartier à avoir des actions en profondeur sur la question de la nutrition des jeunes et de la lutte contre les excès de poids des jeunes. Ça a eu des effets, elle l'avait mesuré. Et puis, le FIR, c'était 3 ans, ça s'est arrêté et tout est tombé. C'est-à-dire que ça a été un considérable gâchis. Alors, ça n'est qu'un exemple, mais j'imagine que vous en avez plein comme ça dans la tête. Ce qui montre bien qu'il y a derrière ça une question de gouvernance. Qui gouverne dans la durée ces sujets? Qui fixe un cap et qui est garant de ce cap dans la durée? Je pense que quand on pose des questions comme ça, on pose, me semble-t-il, des questions de gouvernance. Je vais prendre d'autres exemples dans un domaine qui relève en effet, et Sophie l'évoquait tout à l'heure sur le rôle des assureurs de santé, des rôles des complémentaires, qui en effet font plein de trucs, mais en réalité, elles font plein de choses de manière accessoire et sans que ça relève de leur modèle économique. Je pense que ça, c'est un vrai sujet et ça pose la question de la gestion du risque. Quand on est par ailleurs, et évidemment, ça n'a rien à voir avec la santé, sur des risques industriels, la prévention est un des outils, parmi beaucoup d'autres, qu'on a pour gérer le risque. Alors, il y a plein d'outils, évidemment, qui ne s'appliquent pas à l'univers de la santé quand on est sur des risques industriels, mais si on aborde la prévention par de la gestion du risque, et ça vaut en particulier pour les préventions secondaires et tertiaires, on a un objectif clair qui est de réduire un risque. Et pour réduire ce risque, on engage une stratégie organisée, chiffrée, évaluée de prévention. Et François le disait tout à l'heure, d'où la nécessité d'ailleurs d'avoir des systèmes d'évaluation de base comme qu'on n'a pas. Et je vais prendre quelques exemples que des assureurs ou des institutions de prévoyance ont conduit ces dernières années. Parce que, en fait, il faut distinguer, me semble-t-il, ce qui relève de l'action publique, du service public, pour toutes les populations, et en particulier les populations défavorisées, et avec une nécessaire priorité, probablement, en termes de justice sociale sur les populations qui en ont le plus besoin, François le disait, de ce qui relève du pilotage du risque pour des populations professionnelles qui sont insérées et dont on connaît beaucoup mieux la prophylaxie. Et j'ai deux exemples en tête de sujets intéressants réalisés par deux institutions de prévoyance différentes. L'une qui est très ancienne sur le traitement du diabète pour les boulangers et qui avait produit des effets intéressants. Et l'autre, plus récente, sur le transport routier. Les chauffeurs routiers font l'objet de risques très particuliers. Ils ont évidemment des risques de lombalgie, ils ont des risques d'endormissement, ils ont des problèmes de vue. Et cette association, cette institution paritaire a monté un système de prévention en liaison avec les syndicats médicaux pour organiser des visites de prévention régulières. Et donc ça, ce sont des choses très concrètes, mais à chaque fois, ça répond à un objectif identifié. Et j'en prendrai d'ailleurs un troisième, qui est plus étonnant, mais qui là aussi s'inscrit dans un cadre professionnel, qui est dans le secteur de la défense. Et de la marine, il se trouve que l'armée constate qu'il y a un excès de poids chez certains marins et que ça pose des problèmes de maintien en condition opérationnelle des forces de défense. Et donc, on a un objet de risque qui est très identifié, c'est le risque de perte de condition opérationnelle de défense, et on monte un programme de prévention et on le monte sur le terrain. Et ce qui est caractéristique, et ces expériences qui, me semble-t-il, sont toutes les trois intéressantes, elles ont été montées sur le terrain et elles ont été réalisées avec des actions de formation, des actions d'accompagnement sur le terrain par des professionnels du secteur. Et ça, je crois, moi, vu de là où je parle, que c'est un sujet tout à fait important. Alors, quelles conséquences on peut en tirer très rapidement? À mon avis, je voudrais vous proposer deux pistes de réflexion. Pour faire confiance au terrain, et Sophie le disait aussi d'ailleurs, je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau évidemment qui concerne la politique de santé publique et la sûreté pour les citoyens, et ça c'est du domaine régalien de l'État, personne ne contestera. En revanche, je voudrais poser une question. Est-ce que l'État est le mieux placé pour mettre en œuvre tout ça en direct ou est-ce qu'en effet, il ne faut pas s'appuyer plus et bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui sur les régions, et c'est un sujet de travail et de réflexion assez constant sur différents domaines, sur le domaine de l'emploi également, d'ailleurs, au CRAPS, sur les régions qui, d'une région à l'autre, ont à connaître, à traiter de sujets de santé publique, de sujets d'emploi aussi d'ailleurs, de sujets de logement, qui sont très différents. Les problèmes de santé publique dans la région des Hauts-de-France et dans celle de Paris-Centre, alors je prends Paris-Centre parce que l'Île-de-France est une région très, très diverse et donc on y trouve à la fois des ruraux et des urbains, donc c'est très hétérogène, mais sont de nature bien différentes. Et il nous semble grave parce que la région est un lieu de, non seulement de réflexion, mais aussi d'action important. Et donc ça soulève une question de gouvernance, c'est-à-dire que quand on regarde l'article 14.11-1 du CSP qui dit que l'État est le responsable, et qu'il y a d'ailleurs, il dit juste dans un alinéa que ça se fera en liaison avec les régions, mais en réalité, on ne donne pas de rôle aux régions dans l'état actuel du cadre légal. Donc il y a une vraie question, à mon avis, d'évolution de cette gouvernance, de manière à ce que les régions puissent être impliquées. Si le cadre légal ne donne pas aux régions des prérogatives et des objectifs dans ce domaine, on ne voit pas bien comment elles le seraient, en fait, de manière structurelle et organisée. Donc ça me semble être une question de gouvernance. Et puis, pour les salariés, d'une manière générale, des branches professionnelles, on peut aussi faire le constat que l'État n'a pas fait confiance aux partenaires sociaux et aux branches professionnelles. Certes, les complémentaires font ici, quand elles le peuvent, et d'ailleurs sur leur budget et sur leurs réserves, sur leurs fonds propres, des actions de prévention. Mais ça n'est pas duplicable, ça n'est pas amplifiable s'il n'y a pas un modèle économique. Et pour qu'il y ait un modèle économique, il faut que la question de la gestion du risque soit clarifiée. Aujourd'hui, je prends un exemple de gestion du risque, qui est l'arrêt de travail. Sur l'arrêt de travail, personne n'est responsable de rien. Or, l'arrêt de travail est un vrai beau sujet pour construire à partir de la gestion du risque arrêt de travail des actions de prévention, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires. Donc, cette question de la gestion du risque, pour les populations que je qualifierais d'incluses, hein, pour la différencier de manière très artificielle et bien sûr grossière, de ce qui relève de l'action de santé publique, de rééquilibrage dans un terme de justice sociale, mais pour ces populations qui sont insérées dans des univers professionnels, dans les branches professionnelles, la question de la gestion du risque qui pourrait, devrait, je ne sais pas, être confiée à des acteurs qui sont présents dans ces branches professionnelles. Alors, ce sont évidemment les partenaires sociaux, ce sont les instituts de prévoyance et assureurs de santé qui sont présents. Si on ne leur confie pas la gestion du risque, ils auront énormément de mal à conduire des actions de prévention qui soient autre chose qu'un émiettage d'actions assez ponctuelles et en effet dont on ne voit pas la cohérence et la visibilité. Bon, voilà, donc ça me paraît être un vrai grand sujet. Vous voyez, moi, j'aimerais qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion et qu'on dise, mais finalement, pour que les choses se structurent, il faut aussi toucher à la gouvernance et pas uniquement à l'organisation, parce que cette gouvernance, elle va déterminer une organisation de terrain qui sera peut-être différente. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et peut-être je répondrai dans le jeu des questions et des réponses à la question de Sophie sur le rôle des complémentaires, parce que j'y ai déjà un peu répondu, mais je pourrais compléter.
Merci beaucoup, Didier. Je crois que vraiment, cette question de gouvernance est quelque chose d'important. Sur la gouvernance, on a eu en particulier l'intervention des électrons qui y fait part, mais on n'a pas entendu vraiment la gouvernance vue par l'Observatoire de la régionalisation, par exemple. Fabienne, qu'est-ce que on pourrait en dire au niveau de l'Observatoire sur cette gouvernance? Autre chose, je vous propose de remonter vos différentes questions en allumant votre petite main jaune ou en mettant des questions dans le chat, comme vient de le faire d'ailleurs James Goldberg, qui nous a donné un certain nombre d'éléments d'informations, et je le remercie. Donc, n'hésitez pas à activer votre main jaune pour que vous puissiez prendre la parole et également poser des questions à nos différents intervenants. Fabienne, question de gouvernance pour l'Observatoire.
Effectivement, on avait abordé pas mal ce sujet-là dans les différentes réunions qu'on avait eues ensemble au sein de l'Observatoire de la régionalisation. Ça ne concernait pas spécifiquement la prévention. C'est pour ça que sur le temps imparti, j'ai choisi d'être plus sur le temps de la prévention. Ce qu'on s'est dit, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne doit pas, c'est une responsabilité qui dépasse celle du système de santé. Parce que, comme on disait, notamment le Conseil régional, à des responsabilités dans les prérogatives de l'emploi, de la formation, de l'aménagement du territoire dont je n'ai pas parlé, et aussi de l'aménagement des lycées. Et on a aussi des responsabilités autres sur les départements, sur d'autres questions qui sont celles de la protection de l'enfance, etc. Et en fait, ce cloisonnement des responsabilités empêche particulièrement sur le sujet de la prévention, d'aboutir là-dessus. D'ailleurs, voilà, Midelka, c'est interministériel. Enfin, certainement qu'il y a quelque chose à inventer qui manifestement n'existe pas aujourd'hui de l'ordre de la responsabilité à l'échelle de ce qui nous semble, nous, être la meilleure échelle, qui est celle de la région. Il avait été évoqué un conseil d'administration au niveau des ARS qui soit ouvert. Moi, personnellement, je pense que ça dépasse les attributions des agences régionales de santé qui ont été bâties sur un système d'offre de soins et qui n'ont pas toutes les compétences, les prérogatives et puis pas d'action, comme par exemple l'ont les préfets sur d'autres types de sujets. Donc, il y a vraiment une gouvernance dont on pense, enfin, je crois qu'au sein du groupe, on était tous d'accord, on pouvait dire que la mise en œuvre et le contrôle doivent pouvoir se faire à l'échelle de la région et se déployer à l'échelle locale. Enfin, du coup, une région, ça peut aussi piloter le côté local, si tant est que les régions ne soient pas trop immenses comme bon, la dernière fois nôtre a été un petit peu à créer des régions à dimension variable, mais ça c'est une autre affaire. Mais cette gouvernance, elle doit être vraiment sur intégrer aussi la démocratie. On était aussi tous d'accord sur ce point-là. Donc, ce que vous avez évoqué les uns et les autres, ça, moi, ça m'a évoqué un certain nombre de discussions qu'on avait pu avoir les uns avec les autres. Par contre, là, ça va être ma vision des choses, mais moi qui suis employée par une mutuelle, un organisme d'assurance mutualiste qui opère de la complémentaire santé, de la prévoyance, etc. Enfin, c'est encore une fois faire reposer sur d'autres la responsabilité du management de l'organisation qui est délétère. Ça fait peser le poids de ça sur les salariés qui cotisent pour se payer une complémentaire santé. Donc, moi, je pense que la responsabilité, elle doit être celle aussi des responsables politiques qui doivent rendre des comptes sur les attributions financières qu'ils font et sortir de l'électoralisme et être sur l'evidence-based medicine dont on parlait tout à l'heure, les données probantes des effets. Et on a pas mal parlé d'unplugged. Moi, j'ai été sidérée lors de la présentation, lors du congrès de Santé publique France, de la présentation de ces résultats. Enfin, moi, ça m'a laissé scotcher. Je me suis dit, enfin, quelque chose qui montre ses preuves en prévention, qui a une action sociétale, etc. Mais tous les gens, y compris les médecins de santé publique, à qui je parlais de ça après, ne se sentaient pas concernés, parce que chacun était dans sa propre prérogative de « moi, je suis chargée de santé publique dans tel domaine, par telle unité locale, par tel ceci ou cela ». Et je crois qu'il n'y a que la responsabilité politique à l'échelle, je pense, de la région, qui doit être porteur de rendre des comptes sur aussi l'amélioration de ces indicateurs-là, et pas que sur le point de vue des élections et des électeurs, mais rendre des comptes aussi aux partenaires sociaux qui doivent aussi pouvoir faire réfléchir les choses dans ce sens-là. J'espère être claire.
Oui, non, mais tout à fait, c'est tout à fait intéressant, cette vision interministérielle donc, au niveau de l'État, une vision plus transversale au niveau de la région, avec un décloisonnement de des actions qui ne doivent pas concerner uniquement les ARS, et puis des actions au niveau local. Ça, je pense que ça fait partie des choses importantes. Il y avait la question du financement également, avant de passer la parole à Antoine Priou. La question du financement, l'Observatoire de la régénération, Fabienne, vous avez dit le financement ne doit pas reposer sur la sécurité sociale. Est-ce qu'il doit reposer un peu sur la sécurité sociale ou pas du tout sur la sécurité sociale? Et deuxièmement, s'il ne repose pas sur la sécurité sociale, on le trouve où?
En termes de ressources.
La question de Sophie revient également pour Didier.
En termes de ressources, évidemment, le système de santé, les acteurs de santé sont des ressources formidables qu'on doit mobiliser sur la prévention, c'est certain. Sur les actions à mettre en œuvre, on ne peut pas considérer que l'entreprise n'a aucun rôle à jouer, on ne peut pas considérer que l'école n'a aucun rôle à jouer, on ne peut pas considérer que les autres acteurs de l'environnement, les constructeurs, enfin que sais-je, n'ont pas de rôle à jouer là-dessus. Et c'est là où ils doivent contribuer également à cela.
Ça veut dire qu'en fin de compte, le financement, ça doit dépasser la notion purement de moyens budgétaires mis à disposition pour pouvoir valoriser également, ce qu'on ne fait jamais dans le système de santé d'ailleurs, le rôle des acteurs, que l'acteur soit un comité d'entreprise, que l'acteur soit un conseil départemental, un CCAS ou autre chose. François, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, complètement. D'abord, en termes de financement, aujourd'hui, de facto, le financeur numéro un de la prévention, c'est l'assurance maladie. C'est ce que je citais, plus de 15 milliards d'euros. Et là aussi, il y a des marges de manœuvre à faire. Voilà, je vous reprends l'exemple de l'hypertension. Actuellement, en France, un patient sur cinq est traité à tort. Ça représente 400 millions d'euros de traitement indu. Donc, ça pose bien sûr un problème de qualité de vie, avoir un traitement à vie qui ne sert à rien, mais c'est aussi un problème économique. C'est-à-dire que, aussi en prévention, il y a aussi un enjeu de pertinence.
et 400 millions d'euros, on distribuerait ça aux acteurs de terrain, je pense qu'ils seraient, ravis. C'est pour dire qu'il y a un modèle économique effectivement global, global à voir, et aussi une valorisation de ce que font, comme vous le soulignez, chaque acteur. Pour vous donner un exemple très concret, il y a la mairie d'une grande ville, pas très longtemps, en disant voilà, on veut s'investir en prévention, on va aller dans les écoles, et qu'est-ce qu'il faut qu'on cible? C'était ça la question qu'il me posait. Est-ce qu'il faut qu'on aille voir les enfants pour leur parler de tabac ou d'alcool ou d'activité physique, etc. Moi, j'ai dit, mais en tant que ville, en tant que collectivité territoriale, ce n'est pas en allant faire l'éducation à la santé à l'école votre plus-value. C'est le logement, c'est les espaces verts, c'est l'aménagement urbain, c'est votre politique culturelle, c'est la politique transgénérationnelle. C'est comme ça que vous faites de la santé, c'est comme ça que vous produisez de la prévention. Et c'est vrai que tous ces aspects qui sont essentiels, et qui d'ailleurs dans cette ville fonctionnaient plutôt bien, sont pas chiffrés, sont pas mesurés. C'est tous ces acteurs de prévention qui sont les collectivités territoriales, qui sont ce que vous avez cité, hein, les acteurs du monde de l'entreprise, etc. etc. Effectivement, quand on chiffre la prévention, ça passe à côté. Donc c'est extrêmement difficile à valoriser, enfin, sur le plan économique, mais c'est extrêmement important.
Didier, un mot sur les complémentaires, pour répondre à Sophie. Ouais.
Et puis ensuite, c'est une politique à la mode, je voulais dire, ah ben finalement, les complémentaires ont de l'argent, elles n'ont qu'à faire de la prévention. En fait, si on prend le problème comme ça, on ne règle rien, parce que vis-à-vis des 15 milliards qui sont déjà engagés, ça ne changera rien, ça sera à la marge, hein, parce que, grosso modo, l'ensemble des prestations payées par les complémentaires, c'est 30 milliards, vous voyez, donc ça n'est que deux fois le budget de la prévention, finalement, hein, Et pour ça, c'est 30 milliards de prestations servies sur l'ensemble des dépenses engagées par les assurés. Mais je voudrais reprendre au vol ce que disait François sur l'hypertension. On voit bien que dès lors qu'il y a une consommation inappropriée, massive, sur une pathologie donnée, il y a un objet de gestion du risque. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut privatiser la gestion du risque. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que sinon, je vais être brûlé en place publique. Mais clairement, pour qu'un opérateur, qui soit de nature, qui soit public ou privé d'ailleurs, hein, ce n'est pas la question, pour qu'un opérateur puisse engager de la prévention, dont on ne sait pas bien d'ailleurs toujours s'il y a un retour sur investissement au regard de la seule prévention elle-même, n'est-ce pas ? Mais pour qu'un opérateur, qu'il soit public ou privé, que ce soit l'assurance maladie ou une complémentaire, puisse faire de manière structurée, durable, de la prévention sur la population assurée, et encore une fois, là, je ne parle pas de toute la dimension de santé publique avec tout le sujet qui est en dehors du système de soins, comme l'indiquait François précédemment. Je parle de ce qui est directement relié au système de soins et donc aux pathologies et donc à de la prévention secondaire et tertiaire essentiellement. Hein. Eh bien, il faut lui confier la gestion du risque. Il faut qu'il ait un mandat de gestion du risque. On ne fait pas de la prévention durablement sans avoir un risque à gérer qu'on porte dans ses comptes et duquel on est comptable. Et ceci dans un environnement qui est ou pas concurrentiel. Ça, c'est un choix, pas de société, mais c'est un choix d'orientation de mettre ça dans un monopole d'État ou de mettre ça sur le marché. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, mais quel que soit le choix qui est fait, il y a bien un sujet où, à un moment donné, celui qui engage, qui rembourse des dépenses de santé, qui paye des dépenses de santé, il a la capacité ou pas à peser sur ses dépenses de santé, et il pèse de différentes manières, et une des manières qu'il a, évidemment, c'est de réduire la fréquence du risque, sa probabilité et son amplitude, et à cet égard, aussi bien la réduction de la fréquence que l'amplitude du risque par la prévention secondaire et tertiaire, c'est évidemment le levier qu'il a pour gérer ce risque et rentrer dans un cercle vertueux économique. Il n'y aura pas de prévention significative faite par les complémentaires si les complémentaires n'ont pas des risques à gérer. Alors, après, voilà, ça peut être le risque arrêt de travail, ça peut être des risques identifiés sur des sujets qui correspondent à une politique publique de santé. Ce n'est pas mon point. Il ne m'appartient pas de prendre une position là-dessus. Mais encore une fois, il y a un principe de réalité, il y a un principe de gravitation sur le sujet. C'est quand on est responsable d'un risque, on le gère, et pour le gérer, un des outils, c'est notamment la prévention. Sachant que, bien entendu, en matière de santé en France, et je le redis pour que ce soit clair pour tout le monde, les complémentaires n'ont pas le droit de sélectionner les risques, elles n'ont pas le droit d'exclure les risques, elles n'ont pas le droit de faire de tarification individuelle. Donc, il ne s'agit pas, quand on parle de gestion du risque, d'utiliser un quelconque de ces trois sujets dont je viens de parler. Il s'agit uniquement de pouvoir peser sur la manière dont les soins sont efficaces et dans la manière, d'ailleurs, y compris en termes d'observance des traitements, les patients sont incités à observer un traitement. Un des sujets classiques...
Didier, il faut qu'on soit court parce que... Ouais.
Un des sujets classiques qui paraît banal, c'est dans le dentaire, si vous confiez la gestion du risque dentaire à des complémentaires, vous allez avoir une visite de détartrage et de contrôle annuel qui sera pris en charge par l'opérateur, par l'assureur, parce que c'est son intérêt. Je prends un exemple trivial.
Si je peux juste, c'était le sens de notre proposition. Hein, je ne doutais pas que vous alliez. Je ne suis pas surprise de votre réponse, c'est évident. Donc je tenais à le préciser. Et je voulais juste préciser sur la pertinence des actes. Je pense quand même que c'est déterminant. Hein, quand on voit les expérimentations, article 51 de coordination des acteurs, les leviers de financement, c'est ça, c'est éviter les actes redondants, prévenir des rechutes, des réhospitalisations, faire des économies de transport. Je pense qu'avec une réflexion globale, on a des leviers financiers pour financer quand même une partie des actions qu'on veut développer.
Exactement. Alors, je voulais juste ajouter qu'on voit bien ce que vient de dire Sophie, c'est que c'est bien un élément de la gestion du risque, la prévention.
Tout à fait.
Très bien. Je voudrais passer la parole à Antoine Priou.
Merci Olivier, bonsoir à toutes et tous. Antoine Priou, je suis pharmacien d'officine en milieu rural, je coordonne une maison de santé universitaire et je suis administrateur de la Fédération des maisons de santé, avec santé. J'interviens vite fait, simplement pour vous parler un peu de ce qu'on fait, vraiment c'est du bidouillage, c'est du MacGyver sur des territoires extrêmement contraints en termes de santé publique, mais le fait de travailler en équipe nous permet de faire de la production de données participatives. Dossier patient, c'est un peu comme un Wikipédia, chacun y vient y mettre un peu d'informations. Et à l'échelon d'un territoire, on est capable d'avoir des bases de données consolidées. Alors, c'est de la small data. Hein. Mais moi, en trois requêtes, là, je peux vous sortir le nombre de fumeurs que j'ai sur mon territoire. Et j'ai leur 06, j'ai leur adresse mail, j'ai même une petite barquette à leur nom à la pharmacie. Donc, en clair, je peux faire passer un message, je peux inclure des patients dans des protocoles de santé publique, de prévention, etc. Et donc, je peux commencer à faire de la gestion du risque en santé communautaire parce que, comme vous le savez, une maison de santé ou un centre de santé est très ouvert sur l'implication des patients. Et puis maintenant, on a même des systèmes d'information partagés, en plus en open source, qui permettent aux partenaires potentiels en santé communautaire de se signaler, etc. Ce qui fait que, sans fournir des accès à des bases de données sensibles de type santé, on est capable d'ouvrir maintenant des espaces à des élus, à des associations, à des citoyens lambda, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a des bases de données structurées avec les déterminants de santé, les états cliniques dans le temps, des données médico-économiques de parcours, les données paracliniques, etc., etc. Alors certes, c'est des micro-bases territorialisées, mais elles sont en clair. Vu qu'on peut les mouliner au sein de notre équipe, on n'a pas besoin de faire des dépôts à la CNIL dès qu'il faut mouliner des données et utiliser notre logiciel un peu comme un logiciel de gestion de la relation client, hein, pour ceux qui sont dans le côté entrepreneurial, mais ça nous permet de communiquer avec des pools de patients sur telle ou telle pathologie ou problématique, etc. Et nous, on pense que c'est vachement intéressant dans les maisons de santé, donc on est en train, avec les petits copains là, de la fédération, de voir comment est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, pseudonymiser, faire remonter quelques bases, et puis devenir peut-être un espèce de health data hub, des soins de premier recours, surtout pas hébergés chez un fournisseur d'hébergement soumis à l'extraterritorialité du droit américain, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, de dire à quel moment on pourrait fournir ça à des chercheurs. Parce que, elle est où la recherche interdisciplinaire en soins de premier recours, les mains dans le cambouis, les pieds dans la bouse, mais la tête dans la lune. On la cherche. Voilà. Donc, bienvenue. Allez, et bonne soirée à tous.
Merci. Merci pour cette proposition. Je pense qu'elle rejoint la question des données, et ça, c'est tout à fait important. Il y a Nedic, qui, je ne sais pas qui vous êtes là, Nedic, qui voulait poser une question.
Non, je n'ai pas posé de question particulière. Je n'ai pas de question particulière à poser.
Ah bon, très bien. C'est parce que je voyais votre main jaune s'allumer.
Je n'ai pas bougé ma main, pourtant.
Bon, alors Marc Burquin. Ah, on ne vous entend pas, Marc. Marc, vous êtes en mute.
Bonjour, excusez-moi, c'est bon là ? Non, bonjour. Alors, pardon, je suis arrivé en cours et puis j'ai été un peu interrompu par un coup de fil impromptu, mais j'ai entendu quand même une bonne partie des échanges. Je voulais quand même dire une chose, c'est que évidemment, la prévention, c'est totalement multifactoriel, totalement interministériel. Mais, et là, je rebondis sur l'intervention précédente, il faut quand même un principe de responsabilité. C'est-à-dire, oui, la santé, ça dépend de multiples facteurs, la qualité de l'air, les transports, etc. Mais si on dit que tout est dans tout, à la sortie, comment agir ? Et donc, je pense que l'une des clés, ça serait quand même que sur un territoire, et là pour le coup, peut-être pas au niveau de la région, mais dans un territoire plus réduit, les acteurs de santé, hospitaliers, sanitaires, et médico-sociaux, publics, privés, quelque part, une part de leur rémunération devienne dépendante de l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs qui pourraient travailler avec les agences régionales de santé, avec l'assurance maladie, de manière à ce qu'il y ait une vraie rétribution de la prévention. Parce que c'est quand même un travail nouveau que de faire des actions pour apprendre aux gens à bien manger, apprendre de lutter contre les différentes addictions. Enfin, on pourrait. Bon. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, notamment quand ils sont rémunérés à l'acte ou à l'activité, en réalité, il faut bien se poser la question de savoir pourquoi on n'avance pas sur ces sujets en France, pourquoi on a une espérance de vie relativement correcte, une espérance de vie en bonne santé qui n'est pas satisfaisante et qui ne progresse plus. C'est aussi parce que la prévention, aujourd'hui, elle coûte aux acteurs, elle ne leur rapporte pas. Voire au contraire, dans certains cas, on pourrait même considérer qu'elle pourrait réduire leurs ressources, paradoxalement, si elles réussissent. Donc, il faut renverser la table et dire qu'une part de la rémunération doit être fonction de l'amélioration d'indicateurs de santé qui pourraient d'ailleurs globalement se synthétiser dans un territoire par la progression de l'espérance de vie en bonne santé. Mais après, ça peut se décliner par quelle est l'évolution de l'incidence de tel ou tel cancer, l'évolution de l'obésité, du diabète, etc. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis, je voudrais en mettre un deuxième et qui, lui, est plus délicat sur la table. C'est celui des patients eux-mêmes. Est-ce que c'est absurde de dire, au fond, est-ce que là aussi, il ne faudrait pas inverser l'ordre des facteurs ? Plutôt que de dire, quand vous demandez un soin, vous avez un reste à charge, est-ce qu'il ne faudrait pas dire l'inverse ? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, quand vous rentrez dans un parcours de prévention, alors avec tous les X, une consultation globale, alors peut-être tous les ans, tous les 5 ans, enfin ça dépend de l'âge, des dépistages, etc. Eh bien, à partir du moment où vous avez fait ces actes de prévention, vous n'avez plus de reste à charge. Et c'est seulement si vous ne faites pas ces actes de prévention que vous en avez un. Je voudrais donner l'exemple et après je m'arrête parce que je ne veux pas être long, mais en Scandinavie, sur la question bucco-dentaire, quand on a un problème bucco-dentaire, mais qu'on a fait les actes de prévention, on n'a pas de reste à charge. En revanche, si on ne les a pas fait et qu'on a une carie, alors là, on paye. Et ben, je trouve que là, il y a quelque chose à creuser dans un principe de responsabilisation, mais qui ne soit pas vous payez parce que… on a longtemps pensé que le ticket modérateur, comme son nom l'indique, et d'ailleurs, dans son nom, on voit bien le contresens. Le ticket modérateur, il modère rien du tout. Il exclut du soin les plus modestes ou les plus loin du soin, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envoyer un signal en disant on va inverser l'ordre des facteurs et s'inscrire dans une démarche de prévention, ça permet de ne plus avoir de reste à charge. Et ça, je pense que… Et on a un exemple, et là, la FHF vient de se positionner là-dessus par rapport aux 20 euros qui seront demandés en forfait d'urgence. Nous, on dit plutôt… plus de reste à charge pour ceux qui seront passés par le service d'accès aux soins. C'est-à-dire, à partir du moment où on sera passé par la plateforme téléphonique qui va éventuellement nous donner une solution pour ne pas aller aux urgences, et ben, si la plateforme dit « oui, il faut que vous alliez aux urgences », ben, on ne paye pas.
Je pense qu'il y a des choses qu'il faut creuser. Alors,
je peux dire un mot là-dessus ? Moi, je voudrais dire que c'est un sujet qui, sur le plan éthique, est extrêmement délicat. Parce que pour les populations insérées et sur le dentaire, c'est facile. pour des populations désinsérées qui ne sont pas en capacité de gérer leur état, leur capital santé, c'est quand même beaucoup plus difficile à imaginer. Et j'ajouterais qu'en plus, et je reviens, et d'ailleurs ça fait écho à l'intervention précédente du pharmacien, il faut faire confiance aux gens de terrain et aux corps intermédiaires. C'est-à-dire que aussi bien pour recueillir de la donnée, traiter de la donnée et accompagner des gens, c'est ce que les Canadiens avaient inventé dans les années 80, hein, qui a assez bien marché en termes de prophylaxie dans les centres locaux de santé communautaire. C'est sur le terrain que la donnée est pertinente parce qu'on connaît les gens. Hein. C'est pas dans... Alors, bien sûr qu'il faut en remonter pour faire de l'étude statistique, mais donc, en termes d'action, c'est là que c'est important. Et par ailleurs, il me semble que il faut aussi faire confiance à la démocratie, alors qu'on appelle sanitaire ou sociale, comme on veut. Il y a un moment des gens qui se mettent autour d'une table et qui sont leurs représentants des assurés ou de salariés, de professionnels, de communautés, et qui, ensemble, conviennent de ce qui est souhaitable pour la communauté en question, qu'elle soit professionnelle ou sociale. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Il faut bien se garder sur ces sujets-là qui soulèvent très rapidement des questions éthiques, d'en faire un règlement national ou avoir un système descendant qui va imposer ça à tout le monde. Parce que voilà, c'est assez évident comme remarque, mais je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête.
Alors, peut-être juste un mot.
Non, Marc, évidemment.
Oui.
Si je peux me permettre, on laisse répondre François également, puisqu'il voulait intervenir sur la question.
Oui, mais c'était parce que ça répondait directement. Enfin bon.
Et il nous reste 8 minutes, donc même si je prends 5 minutes supplémentaires.
Donc je vais essayer d'aller vite, mais puisqu'on a parlé avec Antoine et par la suite de la mobilisation du système de soins sur la prévention, soit par l'angle du système d'information, de la responsabilité populationnelle, du mode de rémunération, ou alors du côté patient. Je pense que là aussi, l'enjeu de l'organisation est numéro un. Pour prendre, et avant même les histoires de rémunération et autres, que ce soit côté patient comme côté soignant. Pour prendre un exemple très concret, le tabac de la femme enceinte. C'est un sujet en plus qui n'est pas polémique. En France, on a le record du monde. On a 17% de femmes fumeuses en fin de grossesse, alors que dans certains pays européens, on est à moins de 5%. Donc, on a le record du monde de tabagisme en fin de grossesse. Pourtant, ça fait un consensus total, côté femme, comme côté professionnel de santé, comme côté institution. Il y a plein de moyens qui sont mis. Ça ne fonctionne pas. Et quand on regarde ce que donne l'enquête Périnat, les femmes enceintes ont 10 à 12 contacts avec le système de soins au cours de leur grossesse. Dans un cas sur cinq, personne ne leur a posé la question du tabac. Quand on leur a posé la question du tabac, dans un cas sur deux, on ne leur propose pas de solution. Et pourquoi ? Ce n'est pas des questions d'incompétence, de méconnaissance des uns et des autres, mais le médecin traitant ou la sage-femme va dire « Oui, mais à qui je l'adresse ? Il faut 6 mois de rendez-vous pour un tabacologue. » Ou alors « Est-ce que je suis légitime à poser la question ?» Ou de toute façon, elle ne voudra pas arrêter de fumer. Et la femme elle-même qui dit « c'est un sujet qui est stigmatisant, j'ose pas en parler à mes professionnels. » Et on a expérimenté, pour vous dire, là, sur un territoire de la région, un programme tout simple de mise en relation des professionnels entre eux, mais tout simple, hein, qui coûte 3 francs 6 sous. Et on a, au cours de l'année d'expérimentation, on a diminué d'un quart le tabagisme des femmes enceintes, tout simplement en demandant à chaque professionnel de poser la question et en proposant une solution organisationnelle qui passe par du système d'information, hein, c'est extrêmement important, mais sans aucun centime de rémunération supplémentaire ou pas. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Il y en a besoin si on veut pouvoir pérenniser, etc., etc. Mais tout ça pour dire que l'enjeu, ce n'est pas la femme, en l'occurrence, ou le patient non compliant qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Ce n'est pas le professionnel pas formé qui ne s'investit pas suffisamment. C'est comment on s'organise sur le territoire. Et c'est pour ça que les maisons de santé ou aujourd'hui les CPTS aussi ou les autres modes d'organisation sont essentiels, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Là, j'ai pris un exemple concret, mais on pourrait en citer 1000. Donc, travaillons sur ces organisations, voyons comment leur donner les moyens de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, les CPTS, par exemple, pour prendre cet exemple-là, qui sont en train de se déployer partout, l'enjeu n'est pas le mode de rémunération des professionnels. L'enjeu, c'est comment on coordonne, comment on structure, quels sont les métiers, quelles sont les personnes, le temps humain, consacrée à ces organisations, à faire des diagnostics territoriaux, à mettre en place un système d'information, à construire des outils de diagnostic partagé, à construire des procédures aussi territoriales en fonction des acteurs qui peuvent être très différents, etc. etc. Et c'est tout ce temps humain qu'il faut surtout. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce virage qui me semble essentiel.
Et il y a deux sujets qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie dans nos débats. Juste très rapidement, deux sujets qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie dans nos débats. Le premier, c'est la prévention en santé mentale, parce qu'on ne sortira d'une vision stigmatisante sur la psychiatrie et psychiatrisante, simplement axée sur la psychiatrie, que si on parle aussi de prévention en matière de santé mentale et de bon état de santé mentale. C'est un défi collectif pour une population. On voit bien comme les indicateurs aujourd'hui en post-crise sont dégradés. C'est un enjeu de prévention majeur parce qu'il rejaillit aussi sur les paramètres physiques. Et le deuxième sujet, c'est la prise en compte des enjeux sociétaux. La lutte aujourd'hui, les violences intrafamiliales, le coût économique, c'est 2 milliards. Je ne parle pas du coût humain, sociaux et de l'importance, effectivement, d'intervenir très tôt et évidemment sur ces processus, sur les enjeux également sociétaux. Il y a même si on a beaucoup progressé, et tu parlais, François, des 1000 jours, et enfin, on a décidé, la puissance publique a décidé de s'occuper de l'investissement social précoce sur la petite enfance, qui est un élément fondamental, sur ces sujets sociétaux aussi, qui sont aujourd'hui les sujets qu'on latéralise, parce que entre guillemets, c'est plus facile de parler de tabac, d'alcool, d'addiction que sur ces sujets un peu lourds. Donc, du coup, on les latéralise alors qu'en fait, ils sont fondamentaux et qu'il ne faut absolument pas que par facilité, on les oublie en se disant oh, finalement, on est sur nos bases, l'alimentation, le tabac, l'alcool. Je ne dis pas que c'est pas important, mais franchement, il n'y a pas que ça sur le champ de la prévention, loin s'en faut.
Pour aller dans ce sens-là, juste un mot pour aller dans ce sens-là, comment est-ce qu'on peut entendre un conseil de réduire l'alimentation ou de manger moins sucré quand on se fait cogner dessus en rentrant à la maison, en sortant de la consultation? Donc, je suis absolument d'accord avec ça.
Je crois que le conseil est partagé. On a une dernière question de Enrar. Si vous voulez prendre la parole et mettre votre caméra. Et on va se donner 5 minutes de plus puisque on avait commencé 5 minutes en retard. Alors, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous m'entendez? Et est-ce que vous pouvez vous présenter, parce qu'on ne vous connaît pas?
Oui, je suis un professeur de santé publique à la retraite et je suis rédacteur en chef de la revue Santé publique. Alors, j'avais moi, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit, hein, je suis d'accord. Il manquait, à mon avis, deux éléments qui vont dans le même sens que ce que vous dites. C'est la place des collectivités locales communales. Le bloc communal, on n'en a pas beaucoup parlé. Or, c'est un acteur qui a émergé dans les 20 dernières années avec beaucoup de contrats, avec une mobilisation à la fois des élus, des usagers, des professionnels. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il est très important que l'État donne plus de compétences au bloc communal. Je dis bloc communal parce que entre la commune de 500 habitants et la ville de 2 millions d'habitants, il y a toute une marge. Donc parlons du bloc communal. Je crois que c'est très important. Deuxième chose qui est importante, c'est de faciliter l'appropriation par les agences régionales d'une part et par l'État d'autre part, de toutes les interventions locales qui souvent sont pleines de succès, mais qui sont absolument inconnues à la fois des ARS et du pouvoir central. Je crois que c'est très important. Voilà, c'était les deux observations que je voulais faire, ou les deux apports que je voulais faire.
Je pense que vous avez parfaitement raison en ce qui concerne en particulier. On ne travaille pas en France sur cette notion de success story et trop souvent, on ne montre pas les choses qui marchent. On parlait d'un plug tout à l'heure, c'est exactement le cas. Et je crois qu'il faut faire la promotion justement des actions qui sont des actions de qualité. Et en tant qu'élu local, je suis très sensible à ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est au niveau du bloc communal qu'on peut faire beaucoup de choses. Et surtout, il y a un repérage des populations fragiles ou des personnes fragiles, qui est beaucoup plus simple dans une petite commune à ce niveau-là que ne serait-ce que dans une grande ville comme Paris, quand on est élu.
Et beaucoup de maires font de la santé sans le savoir, parce que quand on améliore les logements,
quand on améliore les transports publics, etc., ben, on contribue à la santé de la population. Et malheureusement, comme on est toujours dans le modèle biomédical dominant, les maires ignorent totalement, finalement, qu'ils interviennent dans le domaine de la santé.
Et je crois que c'est une des grandes règles qu'il faut garder de ce débat, si vous en êtes d'accord, c'est le fait que dans cette vision globale qui caractérise la santé au sens large du terme, ou dans une définition One Health, il va falloir qu'on valorise tout, c'est-à-dire non seulement, bien entendu, les moyens financiers mis à disposition, mais également les efforts que font chacun des acteurs et qui ne sont jamais pris en compte. Le temps, l'investissement, les moyens d'affichage, autre chose. Ce n'est pas forcément aux acteurs à eux-mêmes de faire les propres campagnes, mais en tout cas, quand ils se mobilisent, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de valoriser cette mobilisation. Je vais être obligé d'arrêter les débats là. Je crois qu'on aurait pu continuer encore pendant une demi-heure ou une heure. Vraiment, merci à tous d'être présents. On se retrouve le 19 janvier prochain sur le thème de la démocratie sanitaire. Justement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, la démocratie sanitaire sera au cœur de notre prochain débat. Je vous invite tous non seulement à vous inscrire, mais également à faire la promotion de ces rencontres pour qu'on puisse avoir les débats les plus passionnants, comme ce soir et comme la fois dernière, autour de ces questions essentielles qui ne devraient jamais être négligées par les candidats à la présidence de la République. Merci encore et très bonne soirée.
Au revoir, merci.
Merci beaucoup.